Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RMC Story, il est 6h57, on est ravis de vous retrouver, c'est Apolline Matin qui démarre tout l'été avec vous, on se réveille ensemble avec Victor Pourchet, avec Charlène Villemer, on va faire bien sûr le point sur la météo dans un instant avec Manu Le Chypre qui va nous rejoindre, avec Quentin Vinet déjà prêt pour le journal de 7h, on suit bien sûr ce matin le front des incendies avec ses milliers d'évacués en Gironde, Lacanau, l'Age Cap Ferret, au moins 12 000 personnes évacuées, un incendie très violent qui est en cours. On vous donnera toutes les dernières infos sur place dès le début du journal de 7h. Le Var est aussi en alerte maximale avec le vent qui va reprendre. Vous habitez ces régions, vous témoignez, on vous attend au 3216 et on lit tous vos messages au 06 12 424 424. Ça se passe sur WhatsApp. À la une aussi, les morts de la canicule. Près de 6000 décès supplémentaires en l'espace de 2 semaines à la fin du mois de juin. Chiffre inédit depuis 2003. Alors ces morts auraient-ils pu être évités? Je poserai la question tout à l'heure à la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Invitée d'RMC ce matin, elle sera avec nous à 8h45. C'est sa première prise de parole depuis qu'on connaît ces chiffres. Et puis on sera à 7h40 avec le médecin urgentiste de l'hôpital de Saint-Denis, Mathias Vargon. Est-ce que l'hôpital tient? Est-ce qu'on est prêt à affronter d'autres canicules potentiellement dans les semaines qui viennent? Et les clims sont-elles arrivées? On en parle à 7h40, vous êtes soignant, vous connaissez aussi peut-être quelqu'un qui a succombé aux fortes chaleurs. Venez témoigner, venez interpeller la ministre de la Santé, c'est au 3216 et sur WhatsApp. Enfin, Zidane, ça y est, on a la date, 28 juillet. Ce sera mardi prochain. Il deviendra le sélectionneur des Bleus. Ça y est, il a signé son contrat, nous dit RMC Sport. Venez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour reprendre la suite, pour prendre la suite avec les Bleus? 06 12 424 424 sur WhatsApp, le 3216 au téléphone. On vous attend. Allez, d'abord la météo avec Charlène Villemer. Et donc ce risque d'incendie qui est toujours très élevé dans le sud.
Oui, exactement. 5 départements sont concernés, notamment l'Aude, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et puis le Var. Le Mistral se renforce aujourd'hui en Provence, ce vent d'ouest aussi sur le littoral varois. Et puis en Corse, le Mistral va dépasser les 60 km/h aujourd'hui. Toutes les conditions sont réunies donc pour ce feu, ce risque feu de forêt très élevé. Partout ailleurs, le soleil va encore dominer aujourd'hui. Les nuages sont encore présents sur les Hauts-de-France. Au lever du jour, le thermomètre affiche des températures douces au nord entre 10 et 15 degrés. Ce matin, on est entre 15 et 20 degrés au sud, jusqu'à 24 sur le littoral méditerranéen. Et puis les maximales, elles vont encore augmenter aujourd'hui, notamment dans le sud. On sera entre 37 et 39 degrés, notamment dans le Var.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Très bon réveil, merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et à la une, ce très gros incendie en Gironde.
Un feu qui a pris dans la forêt, tout près de la côte, effectivement, 2000 hectares déjà ravagés et 12 000 personnes évacuées depuis hier soir. Certains l'ont été durant la nuit. RMC sur place en direct depuis la Gironde, mais aussi du Var, où les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans la moyenne montagne. On va voir tout ça. On va détailler aussi le nouveau bilan de la canicule du mois de juin. Santé publique France, donc, qui a compté près de 6 000 décès de plus que d'habitude, inédit depuis 2003. Et on a la date, ça y est, c'est mardi, donc Zinedine Zidane va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football.
C'est la forêt de pins en Gironde qui brûle toujours ce matin.
Oui, le feu a pris hier après-midi sur la commune de Somos, entre le bassin d'Arcachon et Lacanau, avant de se propager sur la commune du Porge, où se trouvent énormément de vacanciers à cette époque de l'année. Ce feu a déjà détruit 2000 hectares de forêt et donc 12 000 personnes ont été évacuées. 7 000 rien que cette nuit. Pierre Bourgès, vous êtes d'ailleurs en direct ce matin pour RMC, en direct de Lacanau. C'est une des communes qui est mobilisée pour accueillir tous ces évacués qui ont dû partir en vitesse, des campings notamment durant la nuit.
Oui, en fait, tout a commencé vers minuit. Les maires, comme ici à Lacanau où je me trouve, ont reçu un coup de fil des autorités. Ils vont devoir accueillir une première salve de 3000 vacanciers sur leur commune. Dans le même temps, à l'Age Cap Ferret, la gendarmerie fait du porte-à-porte pour ordonner l'évacuation de certaines habitations. Dans les campings, la sécurité s'en charge, mais tout n'est pas si facile. Je vais vous donner l'exemple des vacanciers du village de la Génisse. À une quinzaine de kilomètres d'ici, la seule route qui amène à ce village est fermée à cause du feu trop proche. Donc près de 350 véhicules ont pris la direction de la plage, ont roulé sur la piste cyclable, puis sur les chemins forestiers pour rejoindre Lacanau. Évacuation inédite, il faut le dire, pour ces touristes qui s'est quand même déroulé plutôt dans le calme, même si pour certains comme Hélène cerne sous les yeux, reste à savoir comment le feu va évoluer. Écoutez.
C'est vrai que c'est un peu flippant parce qu'on part, on laisse tout et c'est pour certains d'entre nous, c'est presque une vie, quoi. C'est une maison de famille, hein. C'est un cabanon en bois, mais c'est une maison de famille.
Lèche-Cap-Ferré, Biganos, Ourtin ou encore Lacanau ont ouvert leur salle des fêtes. Là où je me trouve, des vacanciers arrivent toujours à 7h ce matin et ils sont pour l'instant 120 à dormir ici, sans compter ceux qui ont été réorientés vers des campings de la commune.
Alors on entend ce récit à votre micro ce matin, Pierre Bourgès. Les pompiers de Gironde, ils parlent d'un feu très virulent.
Oui, Quentin, vous le disiez, 2000 hectares ont brûlé. Hier, à 21h, c'était 800. La taille de l'incendie a plus que doublé cette nuit. Pourquoi ? Eh bien déjà, tout simplement parce que ici, autour de nous, il n'y a que des forêts de pins très inflammables, évidemment. Les pompiers ne sont pas non plus aidés par le vent qui, pendant une partie de la nuit, a été largement défavorable et a poussé le feu vers le Cap Ferret, d'où les évacuations préventives. Et pour éviter tout sur-incendie, la préfète a interdit dès aujourd'hui les travaux en forêt toute la journée, d'autant que l'origine du feu pourrait être liée à des travaux de débroussaillage, une origine humaine donc, comme dans 90% des cas. Le procureur de Bordeaux a d'ailleurs indiqué durcir les sanctions contre les auteurs de départ de feu, même si c'est accidentel.
Pierre Bourgès, en direct de Gironde ce matin pour RMC, avec cette image incroyable, l'un des colonnes de pompiers au milieu de la forêt de pins, avec le ciel orange même dans la nuit, au-dessus de cette forêt qui brûle. Alors il y a ce feu en Gironde, et puis il y a toujours le très gros incendie dans la moyenne montagne du Var, qui a ravagé 2500 hectares de forêt tout autour des villages provençaux, pittoresques, Cotignac, Corinthe, Montfort-sur-Argent aussi, où se trouve notre envoyé spécial Célestin Bougère, qui nous raconte le formidable élan de solidarité des habitants et même des sinistrés à l'égard des pompiers.
La lumière de la cuisine de la salle des fêtes est la seule visible dans la nuit. À l'intérieur, une petite dizaine d'habitants du village s'activent encore autour d'une table recouverte de nourriture pour les pompiers. Stéphanie est en charge des opérations.
Ça a pris deux jours qu'on finit les sandwichs.
Vous en préparez combien ?
900, je pense, en tout.
Là, on a des colonnes qui arrivent encore et donc il faut les nourrir pour qu'ils soient en forme. C'est la moindre des choses.
Est-ce qu'on en coupe à la...
Louis, 13 ans, est aussi venu en renfort.
On est plutôt content de faire ça pour les pompiers, pour ce qu'ils font pour nous aussi. Ça choque, parce que du jour au lendemain, on voit des pompiers arriver. Oui, ça choque.
Les gyrophares des camions de pompiers éclairent la pièce à chaque passage et l'odeur de la nourriture ne masque pas celle des fumées. Michael a du mal à effacer de sa tête les images de l'incendie.
Ça vient sur nous avec la vitesse d'un cheval au galop. C'est très, très impressionnant. On pense pas, on est dans l'action. On fera le point bien après.
Dans la pièce voisine, Christine installe son matelas. Elle va passer la nuit ici. Sa maison est menacée.
Ça risque de continuer encore. Donc, on attend.
Il y a un peu d'angoisse quand même de rester ici.
Oui, c'est sûr. On ne sera pas tellement de nouvelles, mais voilà, c'est pas évident.
Comme beaucoup ici, Christine craint cette nouvelle journée où un fort mistral pourrait attiser de nouveau les flammes.
Et alors dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assure que nous disposons de suffisamment de moyens aériens pour faire face à tous ces incendies, façon de répondre aux critiques et maintenant notamment de syndicats de pompiers. Il donne le chiffre de 12 500 départs de feu et plus de 40 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. C'est déjà plus qu'en 2022, année marquée par de gros brasiers, on s'en souvient notamment dans le sud-ouest de la France.
Des incendies qui interviennent dans un contexte de sécheresse, après trois épisodes de canicule, et Santé publique France qui évoque cette surmortalité inédite pendant la canicule du mois de juin.
Avec ce chiffre de 6000 décès quasiment de plus que d'habitude sur la deuxième quinzaine du mois de juin, quand on battait les records de chaleur absolument tous les jours. Bilan inédit depuis la canicule de 2003 et ce constat terrible, des Français sont morts de chaud chez eux, notamment des personnes âgées. C'est ce que vous nous dites ce matin, Louise Salé.
Oui, comme Louisette, 93 ans, morte déshydratée en région parisienne. Il faisait extrêmement chaud dans son appartement sans volet quand Odile, une voisine, y entre le dimanche 28 juin.
J'ai réussi à forcer la porte, en fait. Et puis, j'ai retrouvé Louisette étendue par terre, inconsciente. Et elle s'est éteinte le lundi à l'heure du déjeuner. C'est terrible.
Louisette est partie à l'hôpital comme près de la moitié des personnes décédées fin juin, tandis qu'un tiers sont mortes à domicile. Jean-François Bouscarin, vice-président de la Fédération nationale des infirmiers, regrette que les soignants n'aient pas accès aux coordonnées de ces personnes vulnérables qui sont recensées par les mairies.
La mairie ne peut pas me donner, moi, infirmier de territoire, le nom des personnes qui sont toutes seules pour des questions de coordonnées qu'on doit préserver. Donc la mairie, effectivement, téléphone pour demander aux papis, aux mamies s'ils vont bien. Mais il faut aller les voir.
Rendre visite à ces patients âgés, isolés et à risque permet permettrait peut-être, selon lui, de réduire la surmortalité en période de canicule.
Alors, est-ce que ces morts auraient pu être évitées? Est-ce qu'on est prêt à affronter de futurs nouveaux épisodes de canicule? Deux invités ce matin pour tenter d'y répondre. D'abord, l'urgentiste Mathias Vargon qui sera avec nous dans moins d'une demi-heure. Et puis, la ministre de la Santé qui vient répondre ce matin sur RMC. Ce sera tout à l'heure à 8h40. Et vous venez en débattre, l'interpeller. Je vous attends au 32-16.
C'est le psychodrame de la semaine au gouvernement. Il faut s'accrocher pour suivre. Finalement, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, ne démissionne pas. C'est pourtant ce qu'elle avait annoncé. Après, souvenez-vous, l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole, loi qui a réintroduit deux pesticides interdits en dénonçant un nouveau recul du gouvernement. Mais eh bien, elle a changé d'avis, Romain Cluzel. Elle dit maintenant qu'Emmanuel Macron n'a pas accepté sa démission et donc eh bien, qu'elle reste.
Monique Barbu l'assure, elle restera tant qu'elle a la garantie de pouvoir agir. La ministre de la Transition écologique liste les garanties qu'elle dit avoir obtenues pour rester au gouvernement. Un décret pour baisser le taux de cadmium dans les engrais, la protection des captages de l'eau potable ou encore un débat sur les polluants éternels PFAS, sauf que la plupart de ces mesures étaient déjà dans les cartons. Alors ce vrai faux départ du gouvernement est vivement critiqué à la fois dans l'opposition et au sein du bloc central. Un vaudeville un peu ridicule, tacle un socialiste. Pendant qu'un député MoDem regrette les gesticulations de la ministre. Plusieurs parlementaires s'interrogent désormais sur la crédibilité de Monique Barbu, d'autant plus qu'aucun dossier majeur ne pourra avancer dans les prochains mois entre les débats sur le budget et la campagne présidentielle.
Des peines allant jusqu'à 5 ans de prison assorties de sursis prononcées hier à Sarreguemines en Moselle à l'encontre de 6 jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui avaient tendu des guet-apens à au moins 7 personnes homosexuelles. C'était l'année dernière. Ils utilisaient une application de rencontre avant d'agresser leurs victimes, cagoulées en les forçant notamment à retirer de l'argent. Le parquet de Paris réagit à la mort de Daniel Ciad, le rabatteur présumé dont le nom apparaît des milliers de fois dans les dossiers de l'affaire Epstein. Le parquet fait savoir que l'enquête pour traite d'êtres humains en bande organisée, le visant, continue.
On va revenir sur ce dossier après le journal. Il est 7h09 sur RMC. On a enfin la date, c'est mardi que Zinedine Zidane deviendra le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de foot.
On va passer de DD à double Z. On en parlait énormément depuis hier sur RMC, Clément Brossard, car l'attente est énorme. Et ça y est, donc ça se précise.
Annonce sur les réseaux sociaux, communiqué ou conférence de presse, la forme de l'officialisation de Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur reste secrète, mais la date, elle, est connue. Zizou sera officiellement à la tête des Bleus mardi prochain, le 28 juillet 2026, soit 20 ans et 19 jours après son dernier match sous le maillot de l'équipe de France. Zinedine Zidane a déjà signé son contrat qui pourrait monter jusqu'à 450 000 euros primes comprises. Il devrait être entouré par un staff mixte de plus de 25 personnes entre ses fidèles adjoints du Real Madrid et d'anciens joueurs de l'épopée 1998. Une armée en soi qui aura pour but de faire remporter au bleu de Zidane le prochain Euro en 2028 et apporter, qui sait, une troisième étoile sur le maillot après avoir guidé la sélection vers son tout premier sacre mondial. C'était il y a 28 ans.
Bon, alors on les chambre en football, mais c'est l'année de la Belgique hein, sur le Tour de France en cyclisme. Sixième victoire pour les Belges hier avec Jasper Philipsen. Ça s'est passé à Voiron avant la première des trois étapes de montagne aujourd'hui dans les Alpes entre Voiron et Orcières, Merlette, avec 3900 mètres de dénivelé au programme aujourd'hui pour les coureurs.
Et ce sera à suivre sur RMC, l'intégral tour tout l'après-midi, bien sûr sur RMC. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h10 et on va retourner en Gironde. On est en ligne en direct avec le maire de la ville de Lacanau, Laurent Perrondet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci monsieur le maire d'être avec nous en direct après cette nuit qu'on racontait dans le journal de 7h où de très nombreux habitants du secteur ont dû évacuer au cœur de la nuit. D'abord, quelle est la situation ce matin? Est-ce que il y a toujours une inquiétude sur cet incendie? Est-ce que le feu menace toujours des habitations?
Alors des habitations, mais aussi la forêt bien sûr, mais aussi les structures touristiques qui sont nombreuses et aujourd'hui très remplies. Donc aujourd'hui, on est nous en soutien de ces communes-là, puisqu'on est à 13 kilomètres à peu près du feu, et on reçoit tous les pompiers qui viennent se restaurer, se reposer sur nos structures, et tous les gens qui ont été évacués ont été distribués sur plusieurs communes, à la fois du bassin d'Arcachon et sur le Médoc autour de chez nous.
12 000 personnes évacuées, c'est ça, au cœur de la nuit. Est-ce que vous étiez préparé à un tel scénario?
Malheureusement, l'habitude nous permet d'anticiper ce genre de problème. Donc on a su ce départ de feu à Somos. Quand on a regardé les conditions météo, on s'est préparé à ouvrir nos structures. Donc on était prêt, bien sûr, à rendre service. Et les communes qui sont le plus touchées aujourd'hui comptent sur nous, justement, pour accueillir tous ces sapeurs-pompiers, ces gens qui ont été évacués sur les communes limitrophes.
Vous les accueillez dans quel bâtiment?
Ben là, on est sur les COSEC, salle des fêtes, et après, on utilise aussi nos cantines, on ravitaille, et on a beaucoup de partenaires. Donc, c'est une journée qui a été très difficile, une nuit compliquée, surtout au lendemain du décès de deux de leurs collègues. Les pompiers ont eu beaucoup de difficultés, donc c'est vrai que c'est une journée dramatique, c'est des moments que l'on ne souhaite pas, parce qu'on est attaché à notre massif forestier. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'évacuer tous ces touristes qui sont sur les structures touristiques.
Que vous disent les pompiers ce matin? Ils ont été, j'imagine, sur le pont toute la nuit avec cet incendie qui a progressé très très vite, puisqu'on est maintenant à quelques 2000 hectares brûlés, alors qu'on parlait de quelques centaines à peine hier soir. Ce feu, il continue de progresser?
Les vents se sont calmés depuis 4h du matin, donc il y a des tentatives de contre-feu qui ont été en place ce matin. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir 50 km/h de vent dans la journée, avec des chaleurs à 35 degrés, un taux d'humidité très très faible. Donc c'est ça la crainte de la journée. On a peur de ces reprises, de la violence qui était tout à fait extraordinaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc on a beaucoup souffert hier et cette nuit, et on va observer attentivement comment ça se passe aujourd'hui.
Est-ce que le vent continue de pousser cet incendie vers les zones les plus touristiques, notamment autour de Lacanau ou du Cap Ferret?
Alors oui, c'est plutôt aux alentours de l'Eche Cap Ferret, puisqu'on a les structures évacuées sont au Grand Croc, le village de la Génie aussi sur la commune du Gorge. Donc on est à cette limite, il faudrait que le feu soit fixé à cette limite-là, parce qu'après c'est la presqu'île du bassin du Cap Ferret qui serait en danger. Donc on est tous très inquiets, mais on rassemble nos forces, nous on est en soutien et on se met à disposition bien sûr de toutes ces communes.
Ouais, on comprend que c'est une journée décisive, hein, qui commence pour les pompiers avec de gros moyens déployés tout près donc du bassin d'Arcachon du côté du Cap Ferret. Vous nous dites ce matin que la presqu'île est menacée. Merci Laurent Perrondet pour ce point en direct ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le maire de Lacanau en Gironde, ville qui accueille de très nombreux évacués depuis cette nuit. Il est 7h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on vous en parlait dans le journal de Quentin Vinet, ce coup de tonnerre dans l'affaire Epstein. Daniel Syad, soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort lundi à son domicile en région parisienne. Il était au cœur de l'enquête. Bonjour Nathalie Buquet.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin en plateau. Vous êtes avocate, membre de l'association Innocence en danger, qui accompagne un certain nombre de victimes. Pour vous, c'est la lenteur de la justice qui est le problème, puisque Daniel Syad n'aura jamais eu le temps d'être entendu dans cette affaire. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h17, il était au cœur du système Epstein, cité 2000 fois dans les documents publiés par la justice américaine. Daniel Syad, recruteur de mannequins, accusé d'avoir joué les rabatteurs pour le milliardaire pédocriminel Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort lundi soir à son domicile de Colombes, près de Paris. Bonjour Nathalie Buquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate, membre de l'association Innocence en danger, qui accompagne plusieurs plaignantes. Et votre parti pris ce matin, c'est de dénoncer la lenteur de la justice, parce que Daniel Syad, il était au cœur de l'enquête, mais il n'aura jamais eu le temps d'être entendu.
Exactement. Ça a été hier un sentiment de grande colère au sein de l'équipe des avocats d'Innocence en danger, qui depuis 2019 se mobilise pour que toute cette affaire soit investiguée en France, pour qu'on puisse avoir une vraie affaire française. Monsieur Syad était déjà apparaissait déjà dans la procédure qui avait été initiée au moment où Monsieur Brunel était mis en examen. C'est vrai que au cours du début de l'année 2026, des plaintes l'ont visé directement, mais pour autant, Monsieur Syad était évoqué par d'autres victimes, d'autres jeunes filles, dès 2020. Et donc c'est vrai que depuis hier, c'est un sentiment de grande frustration, un sentiment amer de se dire dans ce dossier encore une fois, la justice arrive trop tard.
Comment vous expliquez ces lenteurs ?
Je ne me l'explique pas, on ne se l'explique pas, tout simplement parce que malgré les annonces du parquet de Paris en début d'année, il s'agit d'enquêtes préliminaires auxquelles nous n'avons absolument pas accès. Depuis plusieurs mois, nous demandons à ce qu'un juge d'instruction soit saisi, ce qui permet aussi aux uns et aux autres de se constituer partie civile, d'avoir accès à la procédure et puis aussi de faire des demandes d'actes.
Cette enquête, elle a été ouverte au mois de février.
Mais on est sous le régime de l'enquête préliminaire, on n'a pas de juge d'instruction, donc tout est à la diligence du parquet.
Et depuis, vous ne savez pas ce qui se passe?
Non, on ne sait pas ce que... Alors ça, c'est le principe. Quand on est en enquête préliminaire, effectivement, les parties, et nous ne sommes pas parties en tant que telles à l'instant T, nous avons fait des signalements, mais nous ne sommes pas parties en tant que telles à cette procédure, et donc nous n'avons aucun droit de regard, ni même de demande d'acte dans cette procédure.
Il y a bien eu des auditions, certaines plaignantes ont été entendues?
Nous savons qu'il y a eu des auditions, notamment de ces nouvelles victimes, nous savons que des témoins ont été entendus, nous savons aussi, puisque ça avait été annoncé par le parquet de Paris, que la procédure de 2019 a été exhumée pour qu'on puisse de nouveau l'examiner. Ce qu'il se passait concernant M. Siad, à savoir, est-ce qu'une interpellation, est-ce qu'une sonorisation de son domicile, est-ce que des écoutes étaient mises en place? Pour l'instant, nous ne le savons pas et probablement nous ne le saurons jamais.
Alors, qui était-il, ce Daniel Siad, et quel était son rôle dans cette affaire, en tout cas son rôle présumé?
Alors, son rôle présumé, a priori, ce serait de recruter des jeunes filles pour monsieur Epstein. Vous avez un certain nombre de journalistes qui ont mené des investigations et qui ont dit qu'ils avaient rencontré environ une centaine de jeunes femmes qui avaient été approchées par Siad pour le mettre en contact avec Jeffrey Epstein. Alors, ensuite, véracité ou pas, je peux pas vous l'affirmer. Aujourd'hui, ça résulte d'investigations par des journalistes en tant que tels pour la justice.
Et des déclarations de ces plaignantes qui disent avoir été contactées par lui.
Pour autant, comme l'a dit son avocat, à l'instant T, il est mort en étant innocent, puisqu'il n'a jamais été entendu, jamais été mis en examen, jamais placé en garde à vue.
Elles sont combien, ces plaignantes, ces victimes présumées à avoir porté plainte, à avoir témoigné?
Alors, il y a celles qui ont déposé plainte pour des faits de viol concernant Monsieur Siad. Elles seraient entre 5 et 7, je ne sais plus exactement. En revanche, sur celles qui auraient été approchées par Monsieur Siad pour être mises en relation avec Jeffrey Epstein, on serait environ une centaine de personnes.
Une centaine de personnes.
Mais pas nécessairement que des Françaises, dans différents pays.
Ces femmes qui ont pris la parole, ce qui est déjà très courageux, n'auront pas de réponse.
N'auront pas de réponse et je peux vous dire que au moins l'une d'elles aujourd'hui va engager une action en responsabilité contre l'État avec son avocat, et les avocats d'Innocence en danger et Innocence en danger se tiendra à ses côtés, parce qu'on considère que dans ce dossier ces victimes n'auront pas de réponse parce que la justice a mis trop de temps, une justice
contre l'État pourquoi, pour négligence,
pour déni de justice. On considère que lorsque les délais sont anormalement longs, la Cour de cassation a consacré le fait que c'était un déni de justice. Est-ce que la justice française accueillera ce recours et le jugera fondé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la question peut se poser et je trouve ça très courageux de sa part de le faire.
Il y avait déjà eu la mort en prison, le suicide en prison de Jean-Luc Brunel, qui lui aussi était propriétaire d'une agence de mannequins, qui lui aussi était présumé être un rabatteur pour Jeffrey Epstein. Il y a maintenant la mort assez énigmatique de Daniel Siad, puisqu'on n'en connaît pas encore les causes. Est-ce que vous trouvez que ces décès sont suspects, sans tomber forcément dans une théorie du complot, mais est-ce que vous trouvez ces décès suspects? L'avocate de Daniel Siad juge justement extrêmement surprenante sa mort en disant qu'il n'avait pas de raison spécialement de se suicider.
Alors, évidemment, on peut se poser la question, surtout qu'au-delà de ces deux décès, il y en a d'autres. Il y a eu des victimes aux États-Unis qui sont décédées d'overdose accidentelle pour la thèse publique.
Et on rappelle que Jeffrey Epstein, lui aussi, a été retrouvé mort dans sa cellule aux États-Unis.
Également, on a eu une de ces victimes qui se serait suicidée. Je trouve que dans ce dossier, ça fait beaucoup de suicidés. Après, évidemment, on peut le penser, on peut s'interroger, mais on n'a pas d'éléments aujourd'hui pour nous dire que de toute façon, la mort de M. Siad ne serait pas naturelle. Et j'ai envie de vous dire, j'espère qu'elle est naturelle, parce que sinon, si vous avez des personnes qui souhaitaient témoigner, je pense que plus aucune ne témoignera.
Qu'est-ce que vous attendez de l'enquête désormais? Alors, les investigations concernant Daniel Siad s'arrêtent, mais est-ce que l'enquête peut malgré tout continuer?
Oui, elle peut continuer sur le volet de la traite des êtres humains en bande organisée, qui dit d'avoir visé justement cette circonstance aggravante, laisse penser qu'on a un réseau et donc plusieurs personnes. Et c'est là qu'il va y avoir un tournant de cette enquête, c'est déterminer quels sont les autres protagonistes qui ont participé à cette traite des êtres humains.
Merci d'être venu ce matin sur RMC et RMC Story. Nathalie Buquet, avocate, membre de l'association Innocence en danger. Et vous nous dites ce matin au moins une des plaignantes dans cette affaire va engager une procédure contre l'État pour déni de justice. Merci beaucoup. Il est 7h23. L'économie, dans un instant, avec Emmanuel Lechypre. Bonjour Manu, l'État va vendre les bijoux de famille?
Oui, ou optimiser la gestion de son patrimoine. C'est selon.
Les détails dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À la rentrée, on garde la tête froide.
Et on s'équipe à prix coûtant chez Conforama. Dans le genre prix bien refroidi, le réfrigérateur Samsung avec écran tactile en façade est à seulement 493,63€. Jusqu'au 24 août, voir conditions sur Conforama.fr.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 et c'est l'heure de l'économie.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour d'Emmanuel Lechypre, c'est 25%. L'État qui veut vendre 25% de son parc immobilier d'ici à 2032.
Oui, le Parlement a entériné mardi soir la création d'une société immobilière publique chargée de gérer l'immobilier de l'État. Alors son rôle consistera donc à optimiser la gestion, la location de tous ces biens aux ministères, aux administrations, aux services de l'État, à des acteurs privés, mais aussi à acheter et à vendre des biens. Alors évidemment, certains crient au scandale, notamment à gauche, on vend les bijoux de famille pour payer nos dettes. Certains y voient au contraire l'opportunité de mieux rentabiliser un patrimoine parfois jugé vétuste ou mal exploité. L'objectif, c'est bien de réduire de 25% le parc immobilier de l'État d'ici à 2032. Un parc immobilier estimé aujourd'hui à 75 milliards d'euros et dont l'entretien coûte chaque année 9 milliards.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce patrimoine public ?
Alors, l'État dispose au total d'un parc de près de 96 millions de kilomètres carrés de surface bâtie, ce qui représente plus de 190 000 bâtiments, nous dit la Cour des comptes. Alors, il s'agit de locaux administratifs, de bureaux, mais aussi de logements et de casernes, casernes de pompiers, de police, de gendarmerie, par exemple. Le ministère de l'Intérieur représente à lui seul plus de 20 000 implantations sur le territoire. Et puis surtout, l'État possède également plus de 42 000 kilomètres carrés de terrain non bâti. Vous savez ce que ça représente, 42 000 kilomètres carrés de terrain non bâti? Ça représente la superficie de la Suisse ou des Pays-Bas. Donc, vous voyez, on a quand même des terrains qui sont possédés par l'État et qui ne sont pas exploités. Donc, il y a sans doute moyen d'optimiser la gestion de tout ça et d'économiser quelques milliards par an sans dire que, comme on dilapide notre patrimoine.
Ça y est, vous avez trouvé la solution pour sauver la France.
Il n'y aura pas une solution pour trouver la France, mais beaucoup de petits ruisseaux qui finiront par faire une grande rivière dans les économies de dépenses publiques.
Emmanuel Lechypre, merci, on se retrouve après le journal de 8h, on parlera des prix du carburant et le plafonnement des prix dans les stations Total qui va continuer avec les prix qui augmentent.
Et on connaîtra les profits de Total pour le deuxième trimestre.
Tout à fait. Alors, on va partir au 32-16 avec Franck qui est avec nous depuis la Loire-Atlantique. Bonjour Franck.
Bonjour.
Bienvenue Franck au 32-16 et sur RMC, c'est Zidane qui vous fait réagir ce matin puisque ça y est, on sait qu'il sera bien le sélectionneur des Bleus mardi prochain. Vous êtes content, heureux, c'est l'homme de la situation ou pas ?
Alors, content, oui, parce que en tant que joueur, forcément, c'est un très grand joueur mondial, un des meilleurs joueurs mondiaux qu'on ait connu, sauf que pour moi, ce n'est pas forcément un problème technique ou tactique, c'est surtout un problème de comportement. Et là, je pense que Deschamps était vraiment l'homme de la situation. En trouver un autre, je sais pas, c'était peut-être pas forcément facile, mais...
Pourquoi vous dites comportement? Vous pensez à quoi? Vous pensez au fameux coup de boule ou...
Alors non, comportement de Zidane, bon, c'est voilà, en tant que joueur, ça me paraît parfois normal quand on voit les agressions de certaines équipes ou de certains joueurs. Il fallait être costaud pour certains joueurs de l'équipe de France qui ont été agressés contre le Paraguay ou voire contre le Maroc. Enfin bon, il y a des situations complètement dingues. Mais le problème de Zidane, c'est que si jamais il a des comportements de joueurs comme, par exemple, si je peux me permettre de dire Cherki, qu'on voit à la télé, lorsque Deschamps le sort à la mi-temps avec Hernandez, allongé sur le bord du terrain avec les tongs et allongé sur son sac, je trouve ça lamentable.
En fait, l'interrogation que vous avez, c'est de savoir s'il gérera aussi bien que Didier Deschamps les personnalités et les comportements des uns et des autres dans le groupe. Merci beaucoup, Franck, d'avoir composé le 32-16 ce matin. Et vous continuez de réagir, bien sûr. On lit aussi tous vos messages sur le WhatsApp RMC. Dans un instant, la météo et le journal.
RMC. Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le sud de la France face aux incendies, celui du Var, toujours pas fixé ce matin et la météo s'annonce défavorable. Et situation également compliquée dans le secteur d'Arcachon où un incendie a déjà parcouru 2000 hectares. 12 000 personnes ont dû être évacuées ces dernières heures. La coordination rurale appelle à la désobéissance. Elle incite les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau pour sauver leur culture. Et sur le Tour de France, la chasse n'est pas seulement au maillot, elle est aussi aux pins. Les collectionneurs sont à l'affût.
Charlène nous le disait, le Mistral est attendu aujourd'hui. L'inquiétude donc dans le Var où le feu n'est toujours pas fixé.
Ce feu qui a parcouru plus de 2500 hectares ne progresse plus dans le secteur de Cotignac et 1200 pompiers toujours mobilisés, épaulés de Canadair. Anna Jaujard, vous êtes notre correspondante RMC dans la région et vous êtes ce matin en direct de Montfort-sur-Argent. Le village a accueilli ces dernières heures des sinistrés. Hein.
Oui, cette commune a été plutôt épargnée par le feu jusqu'à présent, mais il y a quand même eu des évacuations préventives. Une salle municipale a été mise à disposition pour accueillir les habitants qui sont en ce moment en train de dormir sur des lits de camp montés pour l'occasion. Alors parmi les lève-tôt, j'ai croisé Jacqueline qui a eu ordre d'évacuer sa maison. Elle a dormi dans sa voiture avec ses deux chiens ce matin. Elle s'inquiète des conditions météo de la journée.
Il va faire 36 avec le Mistral. En plus, un vent qui souvent tourne. Donc, les pompiers sont d'un côté et puis ben, le feu reprend de l'autre. Enfin, ça tourne, c'est horrible, quoi. Je me dis, si ça se trouve, on va rentrer chez nous, il n'y aura plus de maison.
Et en effet, en même temps que le jour se levait, le vent aussi commençait doucement à souffler sur la commune. Un vent qui inquiète les autorités et les pompiers, car il va se renforcer dans la journée. Il est attendu des rafales jusqu'à 60 km/h dans l'après-midi, ce qui pourrait réactiver le feu à certains endroits.
Anna Jaujard, en direct de Montfort-sur-Argent dans le Var pour RMC. Cet incendie très virulent en Gironde, il avance à une vitesse spectaculaire entre le Cap Ferret et la Cano. Il mesure 15 km, 2000 hectares brûlés, 12 000 vacanciers, habitants évacués. Parmi eux, Bénédicte, habitant de la Génie, a passé la nuit à la Cano après avoir dû quitter son logement.
Hier, en rentrant de la plage, on a vu la fumée, puis on a regardé sur Internet, et on voyait que le feu n'était pas maîtrisé. On s'est dit, bon là, c'est pas bon, donc on a fait nos valises, on s'est quand même couché, on a été réveillés, et tout s'est bien passé au fond. Là, on est en sécurité, mais l'émotion d'être réveillé en plein sommeil, de devoir quitter, pourvu qu'on puisse retourner, que l'incendie s'arrête.
Et dans ce contexte de feu, de chaleur et de sécheresse, cet appel choc ce matin de la coordination rurale.
Leur message, irriguez-vous pour vous sauver. Objectif, inciter les agriculteurs à braver les restrictions d'eau alors que 91 départements sont concernés par les limitations d'usage. Le syndicat alerte sur la survie des exploitations face à la sécheresse, Stéphane Dubuard.
Dans le département du Lot-et-Garonne, depuis le 11 juillet, un arrêté préfectoral limite l'irrigation des cultures agricoles. En période de sécheresse, impossible de compter les litres d'eau versés sur ces champs, explique Vincent Rigaud, céréalier et membre de la coordination rurale.
On n'irrigue pas pour le plaisir, quoi. Là où il n'y a pas de moyens d'irrigation, il n'y aura peut-être pas du tout d'épis, pas du tout de grains, quoi. Quoi qu'il se passe, on irriguera.
Risquer 7 550 euros d'amende pour sauver 30 à 50% de sa production, dit-il. Ce type de décision pourrait avoir des conséquences sur tout l'écosystème, alerte l'hydrologue Charlène Descolonges.
En faisant ça, il y a un risque immédiat sur les rivières qui peuvent s'assécher totalement. Il y a l'effondrement de niveau des nappes et donc les autres usagers sont affectés, oui.
Depuis le 15 juillet, ce sont 99 départements qui sont concernés par ces restrictions d'eau.
Et ça vous fait réagir hein, depuis tôt ce matin au 3216 et sur le WhatsApp RMC, cet appel à désobéir de la coordination rurale. Est-ce du pur égoïsme et de l'accaparement de l'eau des agriculteurs ou une décision indispensable pour sauver leur activité? On en débat tous ensemble. On vous attend au 3216 sur le WhatsApp RMC. C'est le 0612 424 424.
Et Barbara Bouch va déposer plainte contre LFI après l'interruption il y a 5 jours de son concert à Grenoble. Une nouvelle démonstration de force ou une opération de communication des individus cagoulés se présentant comme membres de la DZ Mafia ont diffusé une vidéo pour nier toute implication dans les menaces visant le maire d'Alès. Une prise de parole rarissime alors que l'élu est désormais sous protection après des menaces jugées suffisamment crédibles pour déclencher une intervention à des autorités. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations.
7h35 sur RMC, les Français de plus en plus méfiants pour réserver leurs vacances en ligne.
Alors que 6 Français sur 10 réservent déjà leur séjour sur Internet, les fausses annonces se multiplient. Résultat, 8 sur 10 se méfient davantage et vérifient désormais deux fois avant de cliquer. Alexandre Thibault.
Pour partir avec ses enfants en Espagne et éviter les frais d'agence, Virginie a réservé son logement en ligne.
J'avais vu donc toutes les photos et j'étais très attirée par cet appartement.
Mais en arrivant sur place après plusieurs heures de voyage,
c'était plus du tout le même appartement. C'était plus petit, sur une rue très bruyante. Je m'attendais à des jolis meubles. Je m'attendais à voir ce que j'avais vu quand je réservais. Ça, c'était la surprise.
Elle a retrouvé le sourire depuis et réserve ses vacances en ligne, mais avec vigilance. C'est aussi le maître mot de Dominique. Il vérifie tout sur chaque annonce.
Alors les avis en premier, mais j'essaie de voir si la photo, je peux pas la retrouver autre part, parce que les photos, souvent, c'est des banques de photos, enfin en tout cas quand il y a souci.
Autre conseil, si le loueur vous incite à passer sur un autre site pour payer, prudence, alerte Jérôme Notin, expert en sécurité numérique et directeur de cybermalveillance.gouv.
Il est important de rester toujours sur la plateforme sur laquelle on a identifié l'annonce, ce qui permettra, si l'annonce n'existait pas, eh bien de se retourner contre la plateforme qui a toutes les assurances qui vont bien et qui procédera au remboursement.
Sa dernière astuce, dans la mesure du possible, rencontrer le loueur en personne.
Allez, on part sur le Tour de France où une forme de chasse au trésor a été lancée.
Oui, après avoir séduit les délégations olympiques, le troc du Pins débarque dans la caravane du Tour. Les marques lancent leurs propres Pins et Kevin Morand, les collectionneurs, se les arrachent.
Oui, Jade distribue chaque matin des goodies au départ.
On donne ses macarons à tous ceux qui ont les Bob FDJ.
Cette jeune salariée de la caravane FDJ United arbore une quinzaine de pins différents.
Mon but, c'est de tous les avoir. Là, je crois qu'il m'en manque deux. Parcas de Rix et Leclerc le chat. C'est un peu inspiré des JO, mais ça permet de tous se rencontrer. C'est trop, trop cool.
Un melon pour une enseigne d'hypermarché, une cafetière ou un pot de yaourt. Ces pins sont inspirés des véhicules de la célèbre caravane. Une idée lancée par l'agence événementielle Idéactif qui travaille pour une dizaine de marques présentes sur la grande boucle. Jean-Marc Gidès, son directeur général.
On ne s'attendait pas du tout à cet effet de mode. Ça marche tellement bien qu'on va en refaire avant le départ du féminin parce qu'on n'en a plus assez. Il y en a un qui est très très rare. Et le Charles Leclerc, tout le monde se bat pour l'avoir.
Des sponsors d'équipe ont également lancé leur collection.
Je vous en donne quelques-uns.
C'est le cas de la FDJ United. Lenny Le Derf, responsable partenariat de la marque.
On essaye un petit peu de faire connaître notre équipe, nos coureurs. Ça permet d'accessoiriser l'accréditation. Les goodies qu'on distribue avec notre chapeau aventurier.
Si la FDJ distribue les siens aux spectateurs, les pins de la caravane, produits à quelques milliers d'exemplaires, s'échangent essentiellement entre les accrédités du Tour de France.
Et le peloton, lui, s'attaque aujourd'hui aux Alpes entre Voiron et Orcières. Étape longue de 185 km. Intégral Tour dès 14h sur RMC.
Et pour le Quintet, ce sera à Vichy aujourd'hui.
Ouais, c'est le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, et le 4, son outsider. Et le 6.
Clément Gouitz pour le journal sur RMC. Il est 7h38. On vous parlait de cet appel à la désobéissance lancé par la coordination rurale. D'ailleurs, leur représentant sera avec nous juste après le journal de 8h. Leur président même qui assume cette forme de désobéissance. On continue d'irriguer malgré les restrictions d'eau pour sauver nos récoltes. Ça fait réagir et ça fait réagir au 32-16. Olivier qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez de cet appel? Vous êtes dans l'Ain, hein, c'est ça?
Dans l'Ain, exactement. Donc chez nous, c'est exactement pareil. Hein. Je suis juste au nord de Lyon, si vous voulez, et on a exactement les mêmes restrictions qui commencent à arriver. Pour moi, c'est de la foutaise, comme pas mal de choses de toute manière, puisque on est quand même encadré par deux fleuves qui sont le Rhône et la Saône, qui débitent quand même des millions de litres. Donc nous dire qu'il n'y a pas d'eau dans notre secteur, c'est quand même de la foutaise.
Enfin, c'est pas basé sur rien quand même, ces restrictions d'eau. Elles sont quand même basées sur des études scientifiques très précises, sur le niveau des nappes phréatiques, par exemple.
Donc moi, j'ai une partie agricole, j'ai un puits qui descend quand même à 50 mètres, et on a quand même des capteurs de niveau. Quand l'an dernier, on me disait qu'il n'y avait plus d'eau, alors qu'ils avaient pompé l'eau à 20 mètres par rapport au niveau du sol, je me dis que, je sais pas, on me disait, il y a plus d'eau, et étonnamment, je pompais à 20 mètres seulement, alors que mon puits descend à 50 mètres.
Donc, vous comprenez ces agriculteurs qui disent, la préfecture a beau dire, on respecte pas la consigne.
Exactement. Parce que, de toute façon, c'est comme d'habitude. Le but, c'est justement que les agriculteurs français ne puissent plus produire assez, et comme ça, on fera venir toute la céréale d'Ukraine et des pays étrangers, comme d'habitude.
Et vous pensez pas que c'est une forme un peu de chacun pour soi?
Non, je pense qu'il faut faire un peu de protectionnisme. Il faut un petit peu, à un moment, sauver nos éleveurs et nos agriculteurs français et arrêter de faire venir des produits qui respectent aucune norme et qui, dans leur pays, je pense qu'ils se soucient pas des problèmes d'eau. Hein. À mon avis, C'est comme pour beaucoup de choses. On ne s'inquiète pas des soucis de santé des gens, des soucis d'eau. Je pense qu'on a quand même une agriculture en France qui est quand même relativement dans les clous.
Sauver voilà, l'agriculture, ouais. C'est ce que vous nous dites, Olivier. C'est ce que dit aussi la coordination rurale. Si ça vous fait réagir, bien sûr, vous venez répondre à Olivier. On vous attend au 32-16. Le débat continue. Il est 7h40. Merci, Olivier.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on revient dans un instant sur ces chiffres de la surmortalité, des chiffres jamais vus depuis la canicule de l'été 2003. En l'espace de 15 jours, fin juin, 5700 décès constatés en France. 5700 décès de plus que la normale. Bonjour Mathias Vargon.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Vous étiez déjà d'ailleurs sur le terrain en 2003.
Ah ouais.
Est-ce qu'on gère mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment préparé à d'autres épisodes? On en parle dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
5700 décès en deux semaines. Le nouveau bilan de la canicule du mois de juin. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Bonjour Mathias Vargon.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Merci de nous rejoindre ce matin en direct sur RMC et RMC Story. Près de 6000 morts, donc supplémentaires hein, par rapport à la normale. Le chiffre a été communiqué hier par Santé publique France. La moitié sont décédés en seulement 3 jours sur les 3 journées les plus chaudes et en grande partie notamment en Île-de-France. Ces morts, est-ce que selon vous, ils auraient pu être évités?
Ah, j'en sais rien. En réalité, il a fait très chaud. Est-ce qu'ils auraient pu être évités? Probablement qu'une partie aurait pu être évitée s'ils avaient pu être refroidis avant, c'est-à-dire vivre dans des conditions un peu moins difficiles. La chaleur qu'il y a eu, qui était quand même absolument insupportable. Mais d'un autre côté, il y a eu moins de morts qu'en 2003. C'est d'un côté la société qui est pas mieux organisée qu'en 2003, avec toujours pas de clim, toujours pas de rafraîchissement pour les personnes âgées qui habitent seules à domicile, des gens qui font un peu n'importe quoi quand même quand ils sortent et qu'il fait très chaud. Et de l'autre côté, c'est les pompiers qui sont mieux organisés avec la prise en charge, enfin les pompiers, les services de secours qui sont mieux organisés avec les prises en charge des patients à l'extérieur, notamment en rafraîchissant directement les patients chez eux avec des baignoires, avec des glaçons, et puis les hôpitaux derrière qui étaient mieux organisés qu'en 2003. Donc d'un côté, la société a-t-elle fait des progrès sur la gestion de la canicule? Je ne pense pas. Est-ce que les services de soins, les services de santé, les EHPAD aussi, c'est ça le rafraîchi? Alors, c'est pas l'idéal parce qu'il y a encore des chambres qui sont pas rafraîchies. Dans les hôpitaux, il faisait très très chaud. Chez nous, il faisait 34 degrés dans les chambres. Mais malgré tout, l'organisation des services de santé, elle, s'est largement améliorée en 20 ans.
Ouais. Et l'angle mort, en revanche, c'est les personnes qui sont décédées à domicile. On les a un peu oubliées. Les personnes isolées.
En réalité, c'est la même chose qu'en 2003. Hein. En 2003, on avait découvert fin août, début septembre, des tas de gens qui étaient morts tout seuls chez eux. Donc, je crois que les mairies ont fait plus d'efforts qu'auparavant. Mais
les listes n'étaient pas à jour dans beaucoup de communes. On s'est rendu compte que les listings n'étaient pas prêts.
Mais après, c'est aussi qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Ok, vous savez qu'ils sont isolés, il fait quand même 40 chez eux, il fait 40 la nuit, quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on s'équipe et comment on résiste à la chaleur. Et nous aussi, hein, dans les hôpitaux, c'est comment on s'équipe. C'est-à-dire que clairement, il va falloir climatiser les hôpitaux. Je crois que maintenant, c'est clair. Alors que
justement, ces clims qui ont été promises par le gouvernement, est-ce que vous les avez vus arriver dans votre hôpital?
On a eu quelques clims, mais de toute façon, c'est pas la solution. Quand vous mettez une clim mobile dans une chambre où il fait 40 et qui est une grande chambre, la clim mobile, elle peut pas faire le boulot. En fait, c'est pas le bon équipement. Alors c'est très bien, on le met devant le patient et quand même, hein, c'est mieux que rien. Mais c'est pas une solution de fond. Comme d'habitude, c'est un pansement à un moment.
C'est du bricolage, quoi.
Bah oui, mais il va falloir repenser les travaux. Hein. Chez moi, dans mon service, on doit refaire les urgences. Il y a quelques mois, il n'était pas question de climatiser. On allait dire, on va rafraîchir. Bon, c'est nul le rafraîchissement, tout le monde le sait maintenant.
Et malgré tout, vous dites, l'hôpital a tenu.
Ah, l'organisation de l'hôpital, bien sûr, a tenu, pas que dans mon hôpital, dans tous les établissements. Il y avait des cellules de crise, il y avait une organisation médicale et administrative. On a quand même commandé des clims, des ventilos sans problème. On s'est réorganisé, on a rouvert des lits, on a changé des patients de place. Chez nous, on a passé des patients de la médecine dans le service de chirurgie de jour. Dans l'hôpital de jour de chirurgie, on l'a fait un week-end. On a déménagé une partie d'un service de façon à offrir un peu du frais aux patients.
Donc, ça veut dire qu'en gros, on apprend en avançant, on a appris en 2003, on aura appris de 2026, forcément.
Oui, on a appris du Covid surtout. Parce que le Covid, ça nous a, hélas, permis de nous apprendre, d'apprendre à gérer la crise. Oui, oui, tout à fait.
On est prêt donc pour les si une nouvelle vague se déclenche la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Là, la question, c'est qu'on va rentrer dans la période un peu dure où tout le monde part en vacances et les personnels des établissements aussi partent en vacances. Alors nous aussi, on a une garde. Moi, je vais partir en vacances et d'autres vont me remplacer. Mais c'est vrai qu'il y aura un peu moins de.
Ça veut dire que des lits vont fermer, voire certains services d'urgence ferment pendant l'été.
Ouais, alors ça, c'est une autre problématique. La fermeture des services d'urgence l'été, c'est une autre problématique qui se reproduit tous les ans depuis quelques années. C'est un problème de personnel des urgences, un problème de médecins, un problème de gestion de qu'est-ce que doivent faire les médecins, qu'est-ce que doivent faire les SAMU, qu'est-ce que doivent faire les SMUR. Ça, c'est un autre problème. C'est pas le même problème que la canicule. Mais il faut bien que les personnels des hôpitaux partent en vacances. Et malgré tout, dans beaucoup d'hôpitaux, il y a moins de patients aussi pendant les vacances.
Mathias Vargon, la Haute Autorité de Santé, il y a quelques jours, s'est prononcée pour appliquer l'obligation vaccinale à tous les soignants cet automne pour la grippe. Vous y êtes favorable? Vous dites à la ministre de la Santé qui sera là tout à l'heure, il faut y aller, il faut mettre
Merci
en place cette
Stéphanie.
Obligation.
Ouais, tout à fait. Moi, je suis absolument pour. Alors, à chaque fois que je dis ça, je me prends des tonnes d'insultes, de menaces. La dernière fois que j'ai dit ça, je crois que c'était sur BFM, où on a parlé de l'obligation vaccinale chez plus de 65 ans et chez les soignants, j'ai eu 500 plaintes au Conseil de l'Ordre. CNews s'en est pris à moi, Pascal Pro, et de façon assez marrante, j'ai eu même un député LFI qui s'en est pris aussi à moi, qui s'est associé à une plainte de plutôt de Philippe Autiste, tout en me traitant de progénocide.
Il n'y a que 20% des soignants qui se vaccinent contre la grippe aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi éruptif?
Pourquoi c'est aussi éruptif? Parce que, alors, chez les médecins, c'est pas aussi éruptif. Il y a quelques médecins qui ne veulent pas se faire vacciner, mais la plupart des médecins sont OK pour se faire vacciner. Après, il y a des questions d'organisation. Mais chez le personnel de santé, plus vous éloignez de la médecine, plus les gens sont gagnés par les idées anti-vax, en fait. C'est depuis le début des années 2000. Et puis, le fait que le gouvernement, pendant très longtemps, a hésité à rendre la vaccination antigrippale obligatoire, en fait, les gens se disaient, si c'est pas obligatoire, soit c'est que c'est pas si bien, soit que c'est pas si important. Et donc, oui, c'est très bien que la HAS se soit enfin déterminée sur l'obligation vaccinale. Ça va rendre les choses beaucoup plus claires et ça va protéger les patients.
Je poserai tout à l'heure la question à la ministre qui sera là dans
moins
d'une heure.
Non, mais il faut le redire, ça va protéger les patients, notamment les plus âgés, parce que l'argument des anti-vax, c'était de dire que ça protégeait pas bien les personnes âgées, ce qui est vrai, parce qu'ils ont une immunité qui est moins forte.
Merci.
Et donc, ça va les protéger par les soignants.
Merci beaucoup, Mathias Vargon, d'être venu ce matin sur RMC, RMC Story, médecin urgentiste. En Seine-Saint-Denis, il est 7h51. Dans un instant, c'est le portrait du jour, Victor Pourchet.
Peut-être l'influenceuse la plus puissante du monde, girouette, complotiste et admirée par Donald Trump.
A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h53, le portrait du jour avec Victor Pourchet. Victor, vous nous parlez de cette influenceuse qui souffle à l'oreille de Donald Trump.
Oui, Laura Loomer, 33 ans, profession complotiste en chef auprès du président des États-Unis. Rapide présentation, islamophobe assumée, ou plutôt fière islamophobe, ce sont ses mots. Raciste et menteuse, c'est elle, entre autres, derrière la fake news selon laquelle les Haïtiens de l'Ohio mangeraient des animaux domestiques. Sa petite touche personnelle, c'est d'avoir rajouté qu'ils étaient aussi cannibales.
Et pourtant, vous nous dites qu'il faut l'écouter.
Et pour une bonne raison, parce que Donald Trump le fait, et attentivement en plus, comme les quelques 2 millions d'abonnés sur Twitter de Laura Loomer. Exemple le plus saisissant, en avril 2025, quand en l'espace d'une seule entrevue, Laura Loomer le convainc de licencier une poignée de hauts responsables de la NSA, la célèbre agence américaine de renseignement.
Et son dernier retournement de veste, c'est sur l'Ukraine.
Et Laura Loomer était à Kiev, figurez-vous, ces derniers jours, pour montrer son soutien aux habitants de Kiev, ces mêmes habitants qu'elle qualifiait de nazis il y a quelques temps. La voilà désormais posant à la terrasse du McDonald's de la capitale ukrainienne, dénonçant, je cite, le mépris russe pour l'Amérique. Tout cela juste après que les États-Unis ont accordé à l'Ukraine le droit de fabriquer les tant redoutés missiles patriotes américains. Le bureau de Volodymyr Zelensky ne s'y trompe pas. Il salue sa venue. Il est important que Laura Loomer voie de ses propres yeux ce qu'il se passe ici, écrit-il. En pleine guerre, il n'y a pas de petite victoire ni de mauvais alliés.
Le portrait du jour. Laura Loomer avec Victor Pourchet. Merci Victor. 7h55, allez, on va voyager en France.
RMC.
dans vos villes.
Tout l'été, on continue de parcourir la France à la rencontre de vos maires, élus ou réélus au mois de mars. Ce matin, nous sommes dans les Yvelines à Carrières sous Poissy. Le maire sans étiquette Eddy Haït a été réélu avec une promesse, lancer une carte pour les 1300 familles monoparentales de la commune, notamment les mamans solo, pour leur donner accès à des aides spécifiques. C'est Marion Gauthier qui s'est rendue dans le centre de santé municipale.
C'est là que le maire nous emmène pour présenter ses 21 mesures. Faciliter l'accès aux droits, à l'emploi ou aux places en crèche, des promesses et un statut déjà créé comme un symbole pour Eddy Haït.
J'aurais aimé pouvoir identifier cette problématique plus tôt, évidemment. Je fais le choix personnel d'engager des démarches d'adoption et donc la question de la famille est devenue une réalité plus forte encore dans mon parcours de vie et je me suis dit que ce regard nouveau doit aussi servir d'autres.
On va aller avec une maman, une maman qui a beaucoup participé à l'élaboration du statut, du plan. Maï, bonjour.
Bonjour.
Quand le maire est venu vous voir, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Ben, je me suis dit enfin, on a une reconnaissance, enfin on pense à nous, enfin on nous voit. J'ai 3 enfants, j'ai 39 ans et c'est un parcours du combattant tous les jours. Quand nos enfants ont chacun leurs activités, il faut se diviser en 3.
Et vous pouvez pas avoir de temps plein ?
Et non, j'ai fait mes études dans le commerce, j'ai un bac plus 4. J'ai dû en fait revoir complètement ma vie professionnelle pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, je suis assistante à un club de foot de la ville de Carrières-sous-Poissy. J'ai moins de contraintes.
Mais la mère de famille coquette et souriante gagne seulement 900 euros par mois. Son salaire de cadre était de 3000 euros.
Je rentrais la plupart du temps, ils étaient déjà couchés. On culpabilise parce qu'on a l'impression de ne pas faire partie de la vie de nos enfants. Donc il a fallu faire un choix à un moment.
Maï espère que ce statut changera vraiment sa vie. J'attends de voir, souffle-t-elle.
On a des salles de consultation.
Dans les murs immaculés du centre de santé, Eddy Haït insiste, lui, sur ce pack bien-être. Des séances avec des thérapeutes presque entièrement prises en charge par la mairie.
Il y a des trucs que j'ai découvert. Hein. Il y a l'art-thérapie, naturopathe.
Hypnothérapeute. Ouais. Il me tarde d'intervenir dans ce centre.
Nadine participe au dispositif.
Le bien-être doit être accessible à tout le monde. Ça ne doit pas être une question de finances.
Donc ça, c'est une mesure assez forte dont on est fier parce qu'il faut du temps de répit mental. De la même manière, on met en place une garderie solidaire. Voilà, à un moment donné, vous avez besoin de temps pour vous, mais aussi pour aller pour une inscription, une formation. Et donc, on a un certain nombre de jeunes qui bénéficient d'aide à la ville, qui nous doivent des heures de bénévolat. Donc après formation, ils vont pouvoir tenir cette garderie solidaire ou sur des créneaux dédiés, les mamans solo ou les papas solo pourront déposer un enfant.
Le maire promet encore d'aider à accéder au logement, mais l'écologiste Farid Lounis voudrait ici plus de concret.
C'est dans la relation aux bailleurs sociaux que ces familles-là ne se sentent plus abandonnées. Admettons que demain, la municipalité va accompagner une famille pour retrouver un logement. Au final, cette famille-là se retrouve dans un logement où quand il faut du chauffage, il n'y en a pas. Et quand il fait 35 degrés dehors, en réalité, à l'intérieur, il fait 37. Et c'est ça la principale question.
Malgré tout, l'opposition municipale a voté pour la création du statut qui doit être présenté au Forum des associations début septembre.
RMC dans vos villes, reportage signé Marion Gauthier pour RMC. Dans un instant, le journal de 8h, on va bien sûr retourner en Gironde, faire le point sur l'incendie. Et puis Manuel Chypre pour l'économie.
Mais oui, Total fait de gros profits, mais nous en redistribue une partie.
A tout de suite sur RMC, la météo bien sûr à suivre.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Bienvenue sur RMC et sur RMC Story, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les pompiers redoutent le vent ce matin, que ce soit en Gironde ou dans le Var, où ils font face à deux gros incendies toujours ce matin. 2000 hectares de forêt en feu, 12 000 personnes évacuées. Ça, ce sont les infos de la nuit en Gironde pour ce feu tout près de la côte. Et vous verrez que les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans les montagnes du Var. Il y a du nouveau à Alès après les menaces visant le maire. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé. Les narcotrafiquants démentent être à l'origine des intimidations, on va vous raconter. Et puis le début de la bagarre finale aujourd'hui sur le Tour de France avec la première des 3 étapes de montagne dans les Alpes.
Il y a de l'inquiétude encore ce matin en Gironde.
En raison du feu qui a progressé à une vitesse folle durant la nuit sur la côte, dans la forêt de pins, juste au-dessus du bassin d'Arcachon. Le feu a pris précisément sur la commune de Somos avant de se propager au Porge. On est là dans une région très fréquentée par les touristes à cette époque de l'année. On est passé dans la nuit de quelques centaines à 2000 hectares brûlés et 12 000 personnes évacuées vers les communes aux alentours, comme à Lacanau. Vous êtes en direct ce matin pour RMC, Pierre Bourgès. Vous-même, vous avez passé la nuit avec tous ces vacanciers, ces habitants obligés de partir au beau milieu de la nuit dans des conditions parfois rocambolesques.
Mais oui, en fait, tout a commencé vers minuit. Les maires, comme ici à Lacanau où je me trouve, ont reçu un coup de fil des autorités. Ils vont devoir accueillir une première salve de 3000 vacanciers sur leur commune. Dans le même temps, à Lèche-Cap-Ferré, la gendarmerie fait du porte-à-porte pour ordonner l'évacuation de certaines habitations. Dans 8 centres de vacances, la sécurité s'en charge. Mais tout n'est pas si facile. Je vais vous donner l'exemple des vacanciers du village de la Génisse, à une quinzaine de kilomètres d'ici. La seule route qui amène à ce village est fermée à cause du feu, trop proche. Une file de près de 350 voitures a donc pris la direction de la plage, a roulé sur la piste cyclable, puis sur les chemins forestiers pour rejoindre Lacanau. Évacuation inédite, il faut le dire, pour ces touristes, mais tout s'est déroulé dans le calme. Cathy, les yeux fatigués, en a fait partie justement. Elle est arrivée ce matin dans la salle des fêtes de Lacanau. Écoutez.
On a été réveillés vers 3h du matin, on nous a demandé d'évacuer. Ouais, un petit peu flippant de devoir faire ces petites valises rapidement, même si le feu est loin. Donc on nous a fait passer par des chemins forestiers. Et puis voilà, on a été gentiment accueillis dans un gymnase. Tout va bien, nous sommes en sécurité.
Alors au moment où je vous parle, hein, ce matin autour de moi, ils sont quand même assez peu à dormir. Tous se retrouvent en ce moment devant la machine à café mise à leur disposition. Au centre des discussions, évidemment, cette longue nuit à fuir le feu et à trouver un lieu de rassemblement. Au total, 9 communes ont ouvert leur salle des fêtes. Là où je me trouve, des vacanciers arrivent toujours. Ils sont pour l'instant un peu plus de 120 à dormir ici. Au total, 2500 personnes ont passé la nuit dans ces hébergements d'urgence.
Oui, puis alors, quelle sera la suite? Parce que ce matin, les pompiers redoutent le retour du vent en Gironde. Pierre, le maire de Lacanau en parlait d'ailleurs un petit peu plus tôt ce matin sur RMC.
Oui, c'est clairement la bête noire des pompiers aujourd'hui. C'est déjà lui qui a poussé l'incendie vers le Cap Ferré et qui a attisé les flammes toute la nuit. L'inquiétude qui gagne désormais certains habitants, c'est justement cette presqu'île du Cap Ferré. Faudra-t-il l'évacuer? Dans ce cas, cela pourrait se faire par bateau. Un vrai défi en pleine période de vacances. Alors pour éviter tout sur-incendie, la préfète a interdit dès aujourd'hui les travaux en forêt toute la journée. D'autant que l'origine du feu pourrait être liée à des travaux de débroussaillage. Une origine humaine, donc, comme dans 90% des cas. Le procureur de Bordeaux a d'ailleurs indiqué durcir les sanctions contre les auteurs de départ de feu, même si c'est accidentel.
Pierre Bourgès, en direct donc de ce département de Gironde, précisément de Lacanau, où on le comprend bien, l'enjeu des prochaines heures sera de limiter le feu, qu'il ne se propage pas jusqu'à cette presqu'île du Cap Ferré. C'était en direct ce matin. Les pompiers qui redoutent aussi la reprise du vent et parlent d'une journée critique à venir là dans les montagnes du Var, où 2500 hectares de forêt ont brûlé depuis 48 heures tout autour des villages de Cotignac, Corins, Montfort-sur-Argent aussi. Il y a 10 maisons qui ont brûlé depuis avant-hier. Mais les pompiers ont réussi quand même à sauver 2 sites religieux au milieu de la forêt. Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assure qu'on dispose de suffisamment de moyens aériens pour faire face à tous ces feux de forêt. Il le disait en réponse aux critiques émanant notamment de syndicats de pompiers. Il dit aussi que plus de 40 000 hectares de végétation ont brûlé depuis le début de l'année dans un contexte de sécheresse, de canicule à répétition aussi, hein, 6 000 morts de plus que d'habitude pour celle du mois de juin, d'après les chiffres de Santé publique France. Mais un tel bilan là pour les incendies, eh bien c'est plus que toute l'année 2022, année dont on se souvient notamment pour les brasiers dans le sud-ouest de la France.
Et c'est dans ce contexte qu'une équipe internationale de scientifiques dévoile ce matin une étude sur les conséquences du changement climatique.
Alors ça va sûrement vous paraître évident et vous allez nous la résumer, cette étude, Lucas Lobert pour RMC. On a donc la confirmation que le changement climatique aggrave la sécheresse et en Europe plus vite qu'ailleurs d'ailleurs.
Oui, c'est tout simplement le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Les scientifiques du WWF ont comparé une sécheresse dans le monde actuel avec le même phénomène dans un climat sans réchauffement climatique. Résultat, la sécheresse ne résulte pas principalement de faibles précipitations, mais d'une atmosphère plus chaude qui entraîne un déficit accru des sols, expliquent les scientifiques. Les phénomènes comme les sécheresses et les vagues de chaleur deviennent donc plus fréquents, plus intenses, plus destructeurs, et c'est un cercle vicieux. Si l'air devient de plus en plus chaud, il assèche les sols, la température monte encore et les sols s'assèchent davantage, expliquent les co-auteurs de l'étude. Un assèchement rapide qui rend également les sols plus propices aux feux de forêt. Un signal d'alarme impossible à ignorer selon les scientifiques, indiquant une chose, notre planète est en surchauffe.
Alors malgré ça, eh bien, le deuxième syndicat agricole de France, la Coordination Rurale, appelle les agriculteurs à désobéir et à ne pas respecter les règles de restriction d'eau qui sont actuellement en vigueur dans presque tout le pays, en expliquant que la survie des exploitations agricoles est en jeu. Irriguez-vous pour vous sauver. Voilà ce que dit le syndicat.
Et le président de la coordination rurale sera avec nous juste après le journal. Il est 8h06 sur RMC. On reparle ce matin des menaces visant le maire d'Alès dans le Gard.
Exfiltré de chez lui par le RAID, ça c'était en début de semaine, car sous la menace des narcotrafiquants, eh bien, des personnes se revendiquant de la DZ Mafia publient une vidéo sidérante dans laquelle eh bien, elles assurent qu'elles n'ont rien à voir avec cette histoire. Sur place pour RMC, vous nous racontez, Maxime Clierusa.
Au premier plan, une table avec un drapeau algérien, un drap blanc ou des bandes de scotch noir ont été collées pour former l'inscription DZ. Au second plan, 6 personnes vêtues de noir cagoulées. L'une d'elles prend la parole et condamne les menaces et intimidations qui ont visé le maire d'Alès ces derniers jours. Un acte lâche et odieux, dit l'homme, qui nie toute implication de son organisation et poursuit. C'est un acte criminel qui nuit énormément à nos affaires. Alors cette vidéo émane-t-elle bien du groupe de narcotrafiquants marseillais ? Son authenticité est jugée crédible selon une source proche du dossier à BFM TV. Une vidéo similaire a été diffusée par la DZ Mafia en octobre 2024. Le parquet national anticriminalité organisée indique avoir été informé de l'existence de cette vidéo. Il poursuit ses investigations.
C'est l'affaire qui fait grand bruit cette semaine à Marseille, où commence aujourd'hui et jusqu'à dimanche un des plus gros festivals de l'été, le Delta Festival, qui a lieu sur les plages du Prado. 150 000 visiteurs sont attendus là jusqu'à dimanche. Sauf que bien des artistes de plus en plus annulent leur venue, car on a appris récemment qu'un des fondateurs du festival était accusé de violence sexuelle, Antonin Audion.
Oui, le DJ Moseman, le groupe Acide Arabe ou encore Adèle Castillon ont annoncé se retirer. La chanteuse a déclaré sur ses réseaux sociaux « Je ne peux pas monter sur cette scène en restant fidèle à mes valeurs ». Des partenaires de longue date de l'événement ont également pris leur distance, évoquant des faits graves qui leur ont été rapportés. Des accusations de violence sexuelle que rejette le coprésident du festival mis en cause. Il est retiré de l'organisation. Une commission d'enquête en interne est lancée. Le Delta Festival 2026 est maintenu avec un programme adapté. Et l'organisation annonce reverser l'ensemble des bénéfices potentiels à la cause des violences sexistes et sexuelles. Pour l'heure, le parquet de Marseille indique qu'aucune plainte n'a été déposée.
Ça se précise et ça approche. C'est mardi que Zinedine Zidane deviendra officiellement nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football. On a la date et on sait que Zizou sera entouré d'un staff d'une vingtaine de personnes.
Et on vous attend d'ailleurs au 32-16. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Mardi, Zidane sélectionneur. Pour l'heure, on va parler de la Belgique. On se moque d'eux souvent en football. Mais en revanche, on peut quand même dire que c'est leur année sur le Tour de France.
Oui, parce que c'est Jasper Philipsen, encore un Belge, qui a gagné l'étape d'hier, qui arrivait à Voiron sur le Tour de France. Romain Asselin, vous couvrez la grande boucle cette année pour RMC. Pendant que nous, on attend toujours une victoire française.
Six victoires belges après celle de Jasper Philipsen hier à Voiron. Aucune française après 17 étapes. Johan, venu de Liège, à l'esprit chambreur.
Les Français, il y avait 20 ans, vous étiez là, mais maintenant, vous êtes plus. Maintenant, ce sont les Belges. Ça va revenir, voilà. On va faire une alliance, la France et la Belgique, contre Pogacar.
Mais quand on demande au directeur sportif de Remco Evenepoel si le Belge peut bousculer le maillot jaune d'ici l'arrivée finale à Paris.
Écoute, là, en mode sérieux, quoi.
Pachi Villa n'y croit pas une seconde. Son coureur non plus, déjà bien content d'être à moins de 5 minutes de Pogacar au général.
Tadej est en route pour gagner un cinquième tour. C'est juste incroyable pour moi d'être assez proche de lui. C'est un grand pas en avant. Ça fait un moment que je n'avais pas évolué à ce niveau.
Surtout en haute montagne où personne ne l'attendait à un tel niveau, Zach Dempster, l'un des patrons du Belge.
Il a changé d'entraîneur, puis d'équipe. Il est reparti de zéro pour essayer de progresser petit à petit avec une bonne stratégie. Je pense qu'on voit aujourd'hui l'une des meilleures versions de Remco. Et c'est génial.
Déjà vainqueur de deux étapes, Remco Evenepoel espère brandir un troisième bouquet d'ici dimanche, en plus d'un podium qui lui tend les bras.
Alors c'est le début de la grande bagarre, ça commence aujourd'hui dans les Alpes avec la première des trois étapes de montagne entre Voiron et Orcières-Merlette, 185 km, 5 difficultés au programme, 3900 mètres de dénivelé, c'est beaucoup en troisième semaine, arrivé au sommet dans la station de ski donc. Je rappelle que le français Paul Sexas est quatrième du classement général à 20 secondes du podium, 20 petites secondes à aller chercher.
À partir de 14h, l'intégral tour sur RMC, vous ne manquerez rien de ce Tour de France. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h10. On va retourner au 32-16. C'est Cédric qui est avec nous depuis les Bouches-du-Rhône. Bonjour Cédric.
Et bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Impeccable, on reprend des vacances, mais bon, ça va.
Profitez de vos vacances. On apprend que Zinedine Zidane, et d'ailleurs c'est RMC qui a révélé cette information hier, sera bien sélectionneur dès mardi. Ça y est, il a signé son contrat. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une bonne chose. Franchement, après l'idée d'échange, c'est une bonne chose parce que je trouve que c'était deux joueurs en équipe de France qui étaient super. Et j'ai remarqué que souvent, les milieux de terrain font des bonnes, entre guillemets, de bons entraîneurs quoi, derrière.
Vous lui faites confiance pour prendre la suite?
Oui, largement.
C'est un autre style quand même, Zidane, par rapport à Deschamps.
C'est un autre style, ça va changer justement. Donc on va voir un peu la différence. Mais je pense que le style de jeu va s'approprier aussi à la suite d'Deschamps. On va faire une mixité de deux, je pense.
Eh bien, très bien. Bah, vous saluez cette nomination. On va évidemment en reparler. On suivra tout ça, évidemment, sur RMC la semaine prochaine. Zidane qui a signé son contrat, qui sera sélectionneur mardi. Merci Cédric. Bonnes vacances, alors.
merci.
À bientôt, bonne journée, à bientôt sur RMC 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, l'économie avec Manu Le Chip, c'est le retour du plafonnement des prix dans les stations Total. Et puis cet appel à la désobéissance, on en parlait dans le journal, lancé par la coordination rurale. Le syndicat agricole appelle les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau et à continuer d'arroser malgré la sécheresse. Son président Bertrand Vanteau assume, il nous explique pourquoi. Dans un instant, c'est son parti pris sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France brûle, on vous le raconte en direct depuis ce matin. La France connaît une sécheresse historique qui menace aussi le monde agricole et les récoltes, au point que la coordination rurale appelle les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau prononcées par les préfectures dans de nombreux départements. Bonjour Bertrand Vanteau.
Bonjour.
Vous êtes le président de la coordination rurale, vous êtes aussi éleveur de vaches limousines en Haute-Vienne. Cet appel, c'est vous qui le lancez. Irriguez-vous pour vous sauver. C'est un appel à la désobéissance. En fait, ça y est, vous déclarez la guerre de l'eau?
Bah écoutez, aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on va manquer de fourrage et on va manquer de production agricole de façon drastique. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est quand même pour nous de sauver les cultures qui peuvent être utilisées dans les élevages et puis qu'on puisse avoir du revenu, parce qu'en fait, si on n'irrigue pas, il n'y aura pas de revenu, il n'y aura pas de nourriture pour les élevages concernés, en particulier de ruminants. Donc voilà, simplement pour rappeler quelque chose, hein, c'est que sur les fuites du réseau d'eau potable à l'année au niveau de la France, c'est à peu près 4 milliards de mètres cubes, et l'irrigation en France, c'est à peu près 3,5 milliards. Donc, il y a encore moyen de sauver des cultures. Oui, on appelle à la désobéissance. Il faut aussi savoir que l'eau d'irrigation n'est pas la même que l'eau potable, pour être très clair. Donc, aujourd'hui, celui qui n'irrigue pas, qui est en dessous du sud de la Loire, il n'aura pas de récolte de culture printemps, c'est-à-dire principalement.
Est-ce qu'on peut dire un mot, pardon, Bertrand Vanteau, est-ce qu'on peut dire un mot de ces restrictions? Où est-ce qu'elles sont prononcées et quelles sont les cultures qui sont clairement menacées par ces restrictions d'irrigation?
Très clairement, toutes les cultures de printemps ou les cultures qui ont pu être mises en place après des cultures d'hiver, derrière des blés ou des orges. Donc voilà, c'est un moyen d'avoir de la nourriture pour les élevages, et c'est un moyen aussi de sauver le résultat des céréaliers qui font des cultures de printemps. Pour être très clair, cette année, il y a eu, en termes de cultures de printemps, qui sont principalement les maïs et tournesol, il y a eu moins 10% de l'assolement qui a été donc ensemencé. Ça se trouve à la PAC. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir un gros manque de céréales et de maïs à la sortie de l'été.
Alors, ce qui est très clair, c'est qu'on comprend que vous craignez des pertes. D'ailleurs, on en parle très souvent sur RMC. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cet appel, malgré tout, vous accréditez l'idée que les agriculteurs sont égoïstes, que les agriculteurs s'accaparent les ressources en eau, qui sont les critiques qu'on entend beaucoup, sans penser aux autres usages, sans penser qu'il y a un risque aussi que les rivières s'assèchent?
Écoutez, aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on est en train de payer 30 à 40 ans de blocage pour faire des stockages d'eau supplémentaires, des volumes d'eau supplémentaires qui ont été des contraintes réglementaires poussées par la sphère écologiste qui a infiltré en fait tous les lieux de décision. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on sait particulièrement qu'il va repleuvoir à un moment ou à un autre. C'est surtout d'anticiper la suite et de créer des volumes d'eau supplémentaires pour pouvoir irriguer nos cultures, abreuver nos animaux, mais aussi qu'il y ait la ressource en eau potable et que ça puisse servir en termes de développement économique à l'industrie. Aujourd'hui, on paye le manque d'anticipation de ce qui se passe et les bocages qu'il y a eu. Je prendrai un exemple, je prendrai deux exemples. Sivens et Sainte-Soline. Voilà, c'est vite résumé.
Les bassines.
Les bassines. Sivens, c'était un lac collinaire multi-usage qui devrait être fait. Il a été bloqué par des zadistes et la sphère écologiste. Si Sivens avait été fait, vous sauviez, je sais pas, à peu près 300 ou 400 agriculteurs dans le Tarn. Donc voilà, aujourd'hui, on paye simplement le manque d'anticipation et de courage politique à dire il faut stocker des volumes d'eau supplémentaires.
Alors ça fait réagir votre appel, cet appel à la désobéissance que vous lancez fait réagir. Ah. On a reçu pas mal d'auditeurs et de messages ce matin, notamment sur le WhatsApp RMC. Victor.
Beaucoup de soutien, mais aussi certains qui vous reprochent une vision court terme. Julien et Christian. Julien d'abord qui nous dit quand ils auront tué les nappes phréatiques, il faudra une nouvelle fois distribuer des aides. Et puis Christian qui nous dit si on continue et qu'on aggrave le changement climatique, ces vaches ne survivront pas et les éleveurs de toute façon devront s'adapter.
Et il y a y compris d'ailleurs Bertrand Vanteau des agriculteurs qui ne vous suivent pas là-dessus et qui disent faut pas se tirer non plus une balle dans le pied. Qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur dis simplement que d'abord, les nappes phréatiques, c'est pas la seule, c'est pas la seule ressource en eau pour l'agriculture, et que malgré tout, suivant les secteurs, les nappes phréatiques, il y en a encore qui tiennent et qui peuvent permettre d'irriguer. D'ailleurs, il y a des restrictions sur les nappes phréatiques qui ont des volumes qui peuvent être utilisés pour l'irrigation. Et je leur réponds, ce que je vous ai dit juste avant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas anticipé qu'il fallait stocker plus d'eau dans des lacs et des retenues collinéaires, ou même dans des bassines d'ailleurs, hein, si on peut les appeler comme ça, ce sont des réserves de substitution.
Vous avez obtenu, dans la nouvelle loi, des mesures pour justement assouplir les stockages d'eau. Ça ne suffit pas.
Tant mieux. Mais le temps qu'elle se réalise et le temps que la loi et que les décrets de la loi soient placés, et sur la loi, il ne faut pas s'en plus mentir, il reste le conflit constitutionnel à passer. Donc ça peut être encore un blocage. Donc là, la loi, ok, elle est passée. Ça se trouve, les arrêtés et les décrets ne seront pas appliqués avant un an, 18 mois, ou peut être bloqué par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, on est face à une situation d'urgence. L'urgence, c'est de pouvoir sauver un maximum de paysans pour qu'ils puissent vendre, effectivement, les cultures qu'ils doivent vendre, et penser aussi que les éleveurs en vont en profiter.
Et donc, cet appel à la désobéissance, merci que vous assumez ce matin en direct sur RMC. Bertrand Vanteau, merci d'avoir été en direct avec nous. Président de la coordination rurale, il est 8h20 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre Total Energy annonce ce matin un quasiment doublement de ses profits au printemps dans ce contexte de prix élevés dans les stations-service.
Oui, effectivement, Total vient d'annoncer 6 milliards de dollars de résultats au deuxième trimestre 2026. C'est beaucoup plus que les 3,6 milliards enregistrés au deuxième trimestre 2025. Alors, des profits qui sont dus évidemment à la hausse des cours du pétrole depuis le début de la guerre dans le Golfe Persique, même si cette guerre a perturbé la production et la livraison de brut, ce qui a en partie réduit les résultats sur la partie production. Mais par contre, il y a effectivement une forte augmentation des marges de raffinage. Et donc, ces bons résultats, vous imaginez bien, ne vont pas manquer de relancer le débat. Est-ce qu'il faut taxer ces super profits de Total, voire est-ce qu'il faut nationaliser Total Energy, comme ça a déjà été proposé?
C'est donc peut-être pour ça, pour faire passer la pilule, peut-être, que Total annonce opportunément le retour du plafonnement des prix des carburants dans cette station.
En tout cas, le calendrier est favorable à Total Energy, puisque le plafonnement, on rappelle, hein, c'est 1,99 le litre de sans-plomb 95, 2,15 le litre de diesel. Or, la barre des 1,99 pour le sans-plomb 95 n'a été franchie qu'au cours des derniers jours. Et puis, effectivement, les prévisions ne sont pas réjouissantes. Hein. On a un site comme Roule, par exemple, qui fait des projections et qui s'attend à ce que le prix du diesel soit à 2,40 fin août et 2,25 pour le sans-plomb 95. Et puis, finalement, qui se plaindra de ce plafonnement, à part, à juste titre d'ailleurs, les stations indépendantes, mais c'est pas les automobilistes, hein. Il faut rappeler que Total a fait quand même plus pour leur pouvoir d'achat que l'État, puisque ces mesures de plafonnement vont coûter sans doute entre 300 et 400 millions d'euros à Total, qui a les moyens quand même de se les payer. L'État, bah, ça l'arrange bien aussi, parce que du coup, il n'a pas eu à baisser les taxes. Et puis, bah, est-ce qu'il faut vraiment critiquer Total pour faire des profits aussi élevés? Il faut rappeler que la France a besoin d'un champion mondial de l'énergie. C'est aussi important pour notre souveraineté que l'indépendance de la banque.
Donc, ne nous taxez pas, vous voyez bien qu'on vous redistribue. C'est un peu le message de Total. On termine justement sur les prix de l'énergie, comme tous les jours. On est au plus haut.
Alors justement, le gazole, bah, on est à 2,15 au plus haut depuis 2 mois. Le sans-plomb 95, 2,03, là aussi au plus haut depuis 2 mois. Le pétrole, ça grimpe, 96 dollars le baril. Et puis encore une fois, hein, tous les jours, je vous alerte sur le gaz. Eh bien, le gaz a battu hier un record, puisque il n'a jamais été aussi cher depuis le début de la crise. On est maintenant à presque 63 euros le mégawatt-heure. C'est du jamais vu. Du jamais vu depuis le début de cette guerre.
Merci Emmanuel Le Chypre. À demain, 8h23. Tout de suite, on se détend un peu avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
Apolline, vous n'êtes pas mon amie, vous le savez. Apolline, vous êtes un peu ma maman.
Ah.
Oui, vous êtes un peu. Car vous êtes la maman de RMC, vous êtes la maman de tous les auditeurs, ce qui fait quand même 4 millions d'enfants tous les matins. Voilà, Élise, c'est ma tante, enfin, on est une grande famille. Et les mamans savent, en ce moment, c'est la période des kermesses et des spectacles de fin d'année. Alors,
oui,
vous avez vu à Montreuil. À Montreuil, il y a un spectacle qui fait polémique depuis 3 jours, parce qu'on voit sur une vidéo des gamins de maternelle qui portent des tenues militaires, des lunettes de soleil et des pistolets en plastique, et ils dansent sur la chanson du groupe Triangle des Bermudes qui fait « Chargez ! Chargez ! Chargez ! Chargez ! Chargez ! Chargez !» Vous avez vu ça, le ministre de l'Éducation nationale a réagi et ils sont mignons comme cheveux. Tout. On dirait une petite junte militaire, on dirait le cartel de Blédina. En même temps, avec le scandale du périscolaire parisien, c'est pas une mauvaise idée de former.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça que vous l'avez vécu, vous.
C'est comme ça, voilà. Bon, après, sous les t-shirts, on voit des tenues Peace and Love, et après, ils retirent les treillis, c'est pour la paix. Ouais. Après, ils hurlent et ils courent partout en réclamant des bonbons, et ça, c'est une métaphore de la colline du crack.
Bien sûr.
Bref, ça a changé, quoi, les spectacles pour enfants. Le seul truc bien dans les kermesses, c'est les gâteaux. Ça, Mathieu Béliard, il adore faire des gâteaux pour les gamins.
Monsieur Béliard, vous avez fait quoi comme gâteau ?
C'est pas un gâteau, d'accord ? C'est une déconstruction tellurique de la tarte au citron, avec son écrin d'agrumes biodynamique et son émulsion de pamplemousse gélifiée en apesanteur.
T'as l'air bon.
Y a pas plutôt des Kinder Pingouis ?
Tu manges ! Tu manges ! Chargez ! Chargez !
Les astronautes, Arnaud, de la Station Spatiale Internationale ont reçu ce week-end l'ordre de se préparer à une éventuelle évacuation en raison d'une fuite d'air.
Les cons, ils ont pas pris Thomas Pesquet. Il t'aurait réparé ça en 2 secondes. Il est surdoué, parfait, beau et sympa et qui joue du saxophone. Il aurait bouché ça avec un chewing-gum. En disant, laissez, je m'occupe de tout. Je vais réparer dehors. Non, mais j'y vais sans combinaison, il y en a pour 3 minutes. Je peux le faire sans respirer par moins 1000 degrés, je m'en fous. Quel connard. À CNews, on a commenté l'événement. Xenia Fedorova, il y a donc une fuite d'air et c'est dans le module russe de la Station Spatiale Internationale. Non. Alors, si, je vous jure, c'est le rapport officiel, c'est dans le module russe. Non. Tenez, buvez ce thé, Pascal. Oh, mais le sucre, là, il est vert fluo. Il a l'air un peu chargé. 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 Chargé.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo de Charlène Villemer, encore chaude et avec du vent, ce qui fait craindre encore pour les incendies dans le sud. On surveille bien sûr ce qui se passe en Gironde. On y sera dès le début du journal de 8h30. L'angoisse autour du bassin d'Arcachon avec cet incendie très impressionnant. Et puis Stéphanie Rist, la ministre de la Santé sur RMC ce matin, après l'annonce de ce chiffre, près de 6000 morts de la canicule. Aurait-il pu être évité? Les réponses de la ministre. Et vous intervenez bien sûr, vous êtes avec nous au 32-16. A tout de suite sur RMC. Vous êtes bien sur RMC, il est presque 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'inquiétude est grande ce matin en Gironde et dans le Var. Deux départements touchés par des incendies. Incendies qui ont brûlé plus de 2000 hectares chacun et qui ne sont toujours pas fixés. RMC est sur place ce matin. Le choc hier en Essonne, la découverte de 12 enfants dans une voiture pour dissimuler une crèche clandestine. Et l'air Zidane est sur le point de commencer. Sa nomination à la tête des Bleus devrait officiellement avoir lieu mardi prochain. Une nomination très attendue par les supporters.
D'abord l'angoisse pour les habitants du bassin d'Arcachon.
Un incendie d'une violence exceptionnelle a parcouru 2000 hectares en moins de 24 heures dans le secteur de la forêt des Landes, lieu ravagé il y a 4 ans par les flammes. 12 000 vacanciers, habitants, 8 campings ont dû être évacués ces dernières heures entre Lacano et le Cap Ferré. État des lieux ce matin du maire de Lacano, Laurent Perrondet, invité d'Apolline Matin sur RMC.
Le problème, c'est qu'on risque d'avoir 50 km/h de vent dans la journée, avec des chaleurs à 35 degrés, un taux d'humidité très très faible. Donc, on a peur de ces reprises, de la violence qui était tout à fait extraordinaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Il faudrait que le feu soit fixé à cette limite-là, parce qu'après, c'est la presqu'île du bassin du Cap Ferré qui serait en danger. Donc, on est tous très inquiets, mais on va observer attentivement comment ça se passe aujourd'hui.
Plus de 12 500 départs de feu depuis le début de l'année. 44 000 hectares ont déjà brûlé partout en France, chiffre du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes. Le ministre qui a proposé hier aux familles des deux pompiers décédés mardi en Gironde la tenue d'un hommage national. Et Pierre Bourgès, on en sait un peu plus aujourd'hui sur le profil de ces caporaux.
Oui, de professionnels exemplaires qui abordaient chaque journée avec une passion et un sourire contagieux. Voilà la description faite par une de leurs collègues sur les réseaux sociaux. Ils vivaient pompiers, dormaient pompiers, ils avaient l'amour du métier, ajoute un autre collègue que nous avons pu joindre. Pour les deux hommes, c'était le métier d'une vie. Cela faisait 17 ans qu'Anthony Berthomme était dans les casernes de Gironde. Wilfried Schmitter, lui, a d'abord été sapeur-pompier de Paris avant d'arriver dans le département. Ce fan de surf s'était aussi engagé dans certains événements caritatifs de sa commune. C'est un vrai drame pour Sébastien Défaut, président de la Fédération fédération des sapeurs-pompiers professionnels de Gironde.
C'est une date qu'on se souviendra.
Je vous confirme que c'est quand même très pesant et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre.
C'est d'autant plus traumatisant quand ça touche notre propre corps départemental. Forcément, c'est décuplé quand ça nous touche au niveau local. Oui.
Une cagnotte a été ouverte par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Médard-en-Jalles pour soutenir les familles des deux victimes.
Et ça brûle toujours dans le Var. L'incendie ne progresse plus, mais n'est toujours pas fixé dans le secteur de Cotignac. Et Anna Jaujard, vous êtes ce matin en direct de Montfort-sur-Argent, village qui a pour le moment été épargné par les flammes. Mais l'inquiétude est grande aujourd'hui. La météo s'annonce défavorable.
Oui, ce qui inquiète ce matin les autorités et les pompiers, c'est le vent qui va se lever. Le Mistral va souffler fort, des rafales jusqu'à 60 km/h sont attendues dans l'après-midi. Un vent qui peut réactiver des foyers et en créer d'autres ailleurs. Du côté de Montfort-sur-Argence, où je me trouve, la commune a été épargnée jusqu'à présent par l'incendie. Mais pour combien de temps, s'interroge le maire Philippe Chuyen, au regard des conditions météo de la journée?
La manière dont sont positionnés les foyers, ça pousse vers chez nous, quoi. On a évacué, ouais, le premier jour, on avait trois quartiers avec, qui correspondent à peu près une centaine de maisons, 150 maisons. Il y a pas mal de gens qui ont réintégré leur domicile malgré les interdictions. Bon, on a appelé à la plus grande vigilance quand même. On les a prévenus que, bon, il fallait se préparer à une réévacuation au besoin.
Et pour l'instant, la journée d'hier et cette nuit ont permis aux pompiers de continuer à contenir l'incendie qui ne progresse plus malgré plusieurs réactivations. Plus de 1000 pompiers étaient encore mobilisés hier pour travailler sur les lisières. Vous savez, ce sont les frontières du feu qui représentent ici une trentaine de kilomètres.
Anna Jaujard, notre correspondante RMC en direct de Montfort-sur-Argent dans le Var. Près de 6000 morts de plus que d'habitude en juin lors de la canicule. Chiffre révélé par Santé publique France qui évoque une surmortalité inédite. Ce deuxième épisode de chaleur de l'été a provoqué une surmortalité jamais vue depuis la canicule de 2003. Et toutes les classes d'âge sont concernées. Barbara Butch dépose plainte contre LFI. Plainte pour provocation à la haine et à la violence, annonce son avocat 5 jours après l'interruption de son concert à Grenoble par des insoumis et militants pro-palestiniens. Et Total a doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, une hausse de 67%. Le groupe profite de la hausse des prix du carburant.
Il est 8h34 sur RMC. On en vient à ce choc, la découverte d'une crèche clandestine dans l'Essonne.
12 enfants ont été enfermés jeudi dernier dans une voiture, dont un bébé de 4 mois à hier par 2 assistantes maternelles. Et Rachel Sadodine, elles sont aujourd'hui soupçonnées d'avoir mis leur vie en danger pour dissimuler une activité illégale lors d'un contrôle.
Installée dans un pavillon propriété d'une assistante maternelle agréée de 41 ans, cette crèche peut en principe accueillir 4 enfants et pas un de plus, car la seconde nounou âgée, elle, de 48 ans, s'est vue retirer son agrément en 2021. Mais la situation que vont découvrir les agents de la protection maternelle infantile accompagnés par la police municipale et tout autre, le maire d'hier, Nicolas Dupont-Aignan.
Il y a eu la volonté de nier pour dissimuler une activité illégale. Elle les a mis dans le garage, enfermés dans une voiture. 12 enfants dans une voiture, depuis une heure, avec des bébés.
Ainsi, système de dissimulation bien rodé qui laisse les voisins sous le choc. Préférant rester anonyme, cet habitant est installé dans une maison attenante à la crèche et pourtant...
À aucun moment, on a pu constater plus de 7 ou 8 enfants dans le jardin. On voyait très souvent 2 adultes qui s'occupaient des enfants, alors qu'ils s'occupaient pas forcément beaucoup. De là, imaginer qu'il y ait 17 enfants, c'était assez difficile.
Les 2 assistantes maternelles ont été placées sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs dans l'attente de leur procès qui aura lieu le 22 septembre prochain.
Et 8h35 et ce nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein.
Le rabatteur présumé de femmes pour le pédocriminel américain Jeffrey Epstein, Daniel Syad, a été retrouvé mort à son domicile dans les Hauts-de-Seine. Une enquête pour déterminer les causes de sa mort a été ouverte par le parquet de Nanterre. L'homme qui clamait son innocence n'avait jamais été entendu par les enquêteurs, alors que selon son avocate, Menia Arab Tigrine, il espérait pouvoir s'expliquer.
C'est rare hein, pour un avocat d'être sollicité par un homme qui veut être confronté à la police. Et il était persuadé que le seul moyen pour lui d'arriver à prouver son innocence, c'était par une vérité judiciaire. Il ne voyageait plus. Certains prennent la décision de fuir. Lui, il avait décidé de se tenir complètement à la disposition de la justice. J'ai essayé tout ce que j'ai pu essayer pour qu'au moins il puisse s'exprimer devant autre chose qu'une caméra de télévision. Il est mort et il n'aura toujours pas été entendu.
Et Zinedine Zidane, à 8h36 sur RMC. Le compte à rebours est lancé avant son arrivée à la tête des Bleus.
La FFF devrait l'officialiser mardi prochain. Une arrivée très attendue par les supporters.
pense que ça sera pas mal et qui pourra nous emmener loin.
Sincèrement, je sais pas si Zidane il pourra apporter quelque chose en plus. Ça va être intéressant pour Zidane d'apporter sa touche à lui.
En tant que fan, je suis très content. Après, je me dis que ça peut être à double tranchant. C'est une légende du sport en France, mais est-ce qu'il sera niveau entraîneur avec ce que Didier Deschamps a fait? Ça, je sais pas encore.
18e étape du Tour de France. Aujourd'hui, le peloton attaque les Alpes entre Voiron et Orcières, longue de 185 km. Intégral Tour dès 14h sur RMC.
Les courses, c'est sur l'hippodrome de Vichy aujourd'hui.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, le 4 Spanish Prince, son outsider, et le 6.
Clément Gouitz pour le journal. Il est 8h38 et vous êtes bien sûr RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on revient sur ces chiffres de la surmortalité liée à la canicule. Près de 6000 décès excédentaires sur les deux dernières semaines du mois de juin. On va vous détailler tous les chiffres. Et la ministre de la Santé vient répondre. Bonjour Stéphanie Rist.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant sur RMC et sur RMC Story. Et si vous nous écoutez, vous avez envie d'interpeller la ministre, de réagir. Peut-être êtes-vous soignant, peut-être connaissez-vous un proche qui a succombé à la canicule. On en parle dans un instant avec la ministre et avec vous. Donc au 32-16 et on lit vos messages au 06-12 424 424. C'est sur WhatsApp. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, RMC Story, il est 8h41. Et c'est le choix de la rédaction ce matin. On s'arrête sur les morts de la canicule. Près de 6000 décès supplémentaires enregistrés entre le 17 juin et le 2 juillet. Donc en deux semaines, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, est avec nous ce matin pour répondre dans un instant. D'abord, on va regarder ces chiffres de plus près avec vous. Louise Salé, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Cet excès de mortalité, il concerne de façon inédite toutes les classes d'âge, même si les deux tiers ont plus de 75 ans.
Oui, comme Louisette, 93 ans, morte déshydratée à Sceaux, en région parisienne. Son appartement n'avait pas de volet. Il y faisait 34 degrés le lundi 22 juin. Une température mesurée par Odile, une voisine qui rendait souvent visite à Louisette, comme ce dimanche 28 juin.
J'appelle, j'ai pas de réponse. J'ai réussi à forcer la porte, en fait. J'ai réussi à écarteler l'entrebâilleur. Et puis, j'ai retrouvé Louisette étendue par terre, complètement inconsciente. Et elle s'est éteinte le lundi à l'heure du déjeuner. Ça aurait pu être évité, en fait, ne serait-ce que mettre ce qu'il fallait devant les fenêtres. C'est terrible.
Louisette est partie à l'hôpital comme près de la moitié des personnes décédées fin juin, tandis qu'un tiers sont mortes à domicile.
Et c'est d'ailleurs la principale différence avec la canicule de 2003. Il y a eu davantage de décès à domicile qu'en EHPAD.
Oui, depuis 2003, les EHPAD disposent de salles climatisées. Les victimes de cette canicule sont surtout des personnes âgées qui vivaient seules chez elles et qui cumulaient plusieurs pathologies, d'après Jean-François Bouscarin, vice-président de la Fédération nationale des infirmiers.
La question aujourd'hui collective qu'on peut se poser, c'est comment on repère toutes ces personnes.
Et il regrette de ne pas pouvoir consulter les registres communaux des personnes vulnérables.
La mairie ne peut pas me donner, moi, infirmier de territoire, le nom des personnes qui sont toutes seules pour des questions de coordonnées qu'on doit préserver. Donc la mairie, effectivement, benoîtement téléphone d'ailleurs pour demander aux papis, aux mamies s'ils vont bien. Mais il faut aller les voir.
Rendre visite pendant la canicule à ces patients isolés et à risque permettrait peut-être d'éviter, selon lui, une partie de ces milliers de morts.
Des milliers de corps aussi, malheureusement, dont il a fallu s'occuper en très peu de temps.
Oui, la particularité de cette canicule, c'est son intensité concentrée sur quelques jours. Plus de la moitié des décès en excès ont été constatés entre le 25 et le 27 juin. Et en Île-de-France, notamment, puisque la région enregistre une surmortalité de plus de 80%. Véronique Bertrand dirige une agence de pompes funèbres à Paris.
On a eu à peu près une quinzaine de décès, en fait, sur 2-3 jours. Habituellement, sur un week-end, on va être à 4 appels. Mais ça a été surtout des difficultés au niveau des chambres funéraires où il n'y avait pas de place en fait à Paris. On est obligé de laisser des corps sur place dans les domiciles avec une chaleur qui était intenable et donc les corps se sont abîmés en fait au domicile.
Elle regrette que des conteneurs réfrigérés supplémentaires n'aient pas été mis à disposition assez rapidement par les autorités.
Merci à Louise Salé du service Société d'RMC. Bonjour Stéphanie Rist.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes la ministre de la Santé. On va revenir dans un instant sur cette mortalité inédite. Est-ce que ces morts auraient pu être évitées? Quels enseignements vous en tirez, vous? Vos réponses dans un tout petit instant. Et les auditeurs peuvent nous rejoindre bien sûr au 3216 ou par WhatsApp au 0612 424 424. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La ministre de la Santé est l'invitée d'RMC ce matin. Rebonjour Stéphanie Rist. Merci de nous réserver votre première prise de parole après la publication de ces chiffres de surmortalité enregistrés pendant la canicule du mois de juin. Près de 6000 décès supplémentaires. On a détaillé tous ces chiffres. Est-ce que ces morts supplémentaires, c'est un échec du système de santé français?
Alors déjà, j'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche pendant cette canicule. Et quand on est ministre de la Santé, dès qu'il y a même un décès supplémentaire dont on se dit qu'on aurait peut-être pu l'éviter, c'est jamais une satisfaction, bien évidemment. Ce qu'on peut dire à ce jour, avec les données que nous avons et qui ont été bien expliquées, donc il y a eu une surmortalité, notamment des personnes isolées à domicile. C'est ce qu'on a assez vite, on s'est assez vite rendu compte que c'était que le système de santé tenait, que les en EHPAD, l'apprentissage de la canicule de 2003 avait été fait, mais qu'on a un sujet de solitude en fait, je dirais, de personnes.
On a oublié ces personnes isolées comme Louisette,
On n'avait pas suffisamment de moyens de les repérer, de les détecter, de les accompagner. C'est évident, puisqu'il y a une surmortalité de ces personnes, notamment en Ile-de-France, avec un excès de surmortalité qui est très haut
en Ile-de-France. Ça a presque doublé. Le nombre de morts en Ile-de-France a presque doublé en 15 jours.
Oui, le nombre de morts attendus a presque doublé en Ile-de-France, et notamment chez ces personnes qui sont seules et isolées. C'est pour ça que très vite, avec le Premier ministre, on a mis, et de façon très interministérielle, puisqu'il ne s'agit pas évidemment que du système de santé pour ces personnes qui sont isolées, un travail sur un plan ORSEC renforcé pour prévenir mieux ces décès à domicile, pour repérer mieux, pour mieux les accompagner dans des salles et des endroits où ils pourront être dans des endroits rafraîchis.
Pour être très clair, vous vous êtes rendu compte que les listes que les communes doivent tenir à jour n'étaient pas à jour. On n'avait pas la liste des personnes fragiles à aller voir pour s'assurer qu'elles aillent bien.
Alors c'est variable déjà selon les communes. On peut renforcer évidemment, et je le redis puisque l'été n'est pas fini, je redis aux personnes isolées qu'elles peuvent se signaler auprès de leur mairie pour être dépistées, je dirais, sur ces registres et être accompagné si des chaleurs devaient revenir. Et puis, c'est tout le travail qu'on a mis en place pour qu'il y ait une meilleure coordination entre tous les acteurs sur le terrain pour que ces personnes soient mieux accompagnées. Parce qu'il ne suffit pas de les repérer, il faut aussi les accompagner dans des salles rafraîchies. Donc, il y a tout un travail de cartographie que nous avons fait, de savoir où est-ce qu'il y a des salles disponibles et comment on accompagne ces plus fragiles. Je pense aussi aux personnes les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, qu'il faudra aider à accompagner dans ces pièces rafraîchies.
En fait, on n'était pas prêts. L'hôpital, vous le disiez, a tenu, mais on était avec Mathias Vargon, l'urgentiste, tout à l'heure, qui nous disait, oui, ça a tenu, mais avec des chambres où il faisait 34, parce qu'on n'avait pas de climatiseur. Ça a tenu, on n'était pas prêts. Comment vous expliquez qu'on n'ait pas vu venir ce type de situation, alors que des alertes sur la hausse des températures, on en entend finalement parler tous les ans?
Alors, quand on compare avec la canicule de 2003, on voit des nettes avancées dans l'organisation de l'État, dans la vigilance des professionnels de santé, la sensibilisation, la formation, ce qui a permis de diminuer le nombre de morts qu'on aurait pu s'attendre si on n'avait rien appris depuis 2003. Après, c'est vrai que tous les hôpitaux n'ont pas encore été reconstruits, qu'ils ne sont pas tous rafraîchis ou climatisés. C'est pour ça que nous avons fait tout un travail d'urgence de climatiseurs d'appoint.
On en est où? Vous avez un chiffre du nombre de climatiseurs qui a été livré?
La promesse tenue du Premier ministre, la promesse est tenue puisque les 30 000 climatiseurs sont en train d'arriver tous les jours et seront là d'ici fin juillet.
D'ici à la fin du mois, donc d'ici à la fin de la semaine prochaine? Si la canicule revient en août,
les 30 000 climatiseurs seront soit dans les chambres, soit dans les salles de soins d'ici la semaine prochaine.
On le disait, 5 700 morts, un peu plus en deux semaines. Est-ce que ce chiffre va encore augmenter? Est-ce qu'on peut avoir des décès a posteriori, des organismes fatigués, la chaleur qui continue, ça va continuer de provoquer des décès?
Alors, ce qu'on voit cette année, c'est qu'on a une succession aussi de chaleurs importantes et d'épisodes de canicule. Donc, il sera difficile peut-être de faire le partage entre le décès liés à une canicule ou à celle d'avant, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des décès retardés, notamment chez les gens qui ont des maladies chroniques. Mais on le voit tous, même en étant en bonne santé, on se sent tous fatigués par ces chaleurs. Et donc, évidemment, quand vous avez des maladies chroniques ou des maladies graves, eh ben, évidemment, vous pouvez avoir un retentissement de ces chaleurs un petit peu espacées.
Stéphanie Ries, je voudrais qu'on dise un mot de la situation de nos finances et du budget de la santé, puisque le Premier ministre s'est exprimé dans Paris Match cette semaine en disant que l'assurance maladie était une piste importante d'économie. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire des économies sur les soins et notamment sur les patients? Est-ce que la question des franchises médicales est bien sur la table? Est-ce que les franchises médicales que chaque patient paye pour chaque boîte de médicaments achetée, pour chaque visite chez le médecin, est-ce que le plafond de ces franchises médicales qui est aujourd'hui à 100 euros, va augmenter, va doubler, comme l'affirme le journal Les Échos ce matin?
Je voudrais dire deux choses. La première, et nous venons d'en parler, nous devons continuer à investir pour notre hôpital, à investir pour l'accès aux soins et pour avoir des médicaments qui restent les médicaments les plus efficaces. La deuxième chose que je voudrais dire, et pour être très très clair, le débat sur les franchises a eu lieu l'année dernière. Ce débat a été tranché par le Premier ministre. Il n'y a pas d'augmentation des franchises. Nous gelons le montant de ces franchises.
1 euro par boîte de médicaments.
Cela ne bougera
ça ne changera pas.
Ce que nous faisons évoluer, c'est le plafond annuel. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les Français, tous les Français, s'ils dépassent un nombre de consultations ou un nombre de boîtes de médicaments, payent aujourd'hui, s'ils sont au maximum, 100 euros par an. C'est un plafond. Ils ne peuvent pas avoir à payer plus. Ce que nous faisons, c'est que nous doublons ce plafond qui n'a pas évolué depuis 20 ans. Mais encore une fois, je le redis.
Donc on ira jusqu'à 200 euros par an et par patient.
Alors, il faut savoir qu'en moyenne, quand vous êtes un patient avec des maladies, donc si vous êtes quelqu'un qui a une maladie chronique, en moyenne c'est 78 euros par an actuellement. Donc si on double, on peut estimer qu'il sera plutôt à 150 qu'à 200 euros. Ce que je dis, c'est d'une part, nous ne touchons pas aux franchises. D'autre part, vous savez qu'il y a 18 millions de Français qui ne payent pas ces plafonds puisqu'ils sont soit fragiles financièrement, ils ont la complémentaire santé solidaire, soit ils sont, c'est des femmes enceintes, soit c'est des mineurs. Donc 18 millions de Français ne sont pas concernés.
Mais tous les autres, mais ça veut dire que vous allez finalement faire des économies en demander des efforts à des gens qui ont besoin de soins, qui sont malades, qui ont besoin de médicaments. Plus on consomme des médicaments, plus on va payer des franchises médicales.
Ça correspond à 100 boîtes de médicaments par an pour avoir à payer ce plafond.
Des gens qui ont des traitements
sinon,
à l'année.
En dessous du plafond. Donc, il peut y avoir les gens, mais il peut aussi y avoir un effet de regarder dans son placard s'il reste des médicaments. Je suis très alertée. D'ailleurs, nous travaillons à des mesures sur le gaspillage de boîtes de médicaments. Nous savons, et nous le voyons, et les infirmiers à domicile m'en parlent régulièrement, nous avons trop de boîtes de médicaments dans nos pharmacies qui ne sont pas utilisées. C'est une petite mesure qui permet de regarder aussi si on a sa boîte de médicaments dans sa pharmacie avant d'aller reprendre une boîte.
Ce ne sont pas les plus fragiles qui vont payer.
Ce que je dis, les plus fragiles financièrement, les femmes enceintes, les mineurs, ne sont pas concernés. Je voudrais le redire. Nous ne touchons pas aux franchises. Nous gelons le montant des franchises. Ce débat a été tranché, il a eu lieu l'année dernière. Ce que nous faisons, c'est faire évoluer un plafond qui n'a pas évolué depuis 20 ans. Mais pourquoi nous le faisons?
Ce sera effectif.
Parce que nous venons de le dire. Nous devons continuer à investir dans notre hôpital. Nous avons, depuis 2017, mis 85 milliards de plus pour notre système de santé, nos financements, notre investissement. Mais nous devons continuer cet investissement pour l'hôpital, cet investissement pour l'accès aux soins, je pense aux maisons France Santé, et cet investissement pour avoir encore les médicaments les plus efficaces. Je ne veux pas être la ministre de la Santé qui, parce qu'elle n'aura pas pris des mesures, fera que dans 20 ans, nous n'aurons plus des médicaments les plus efficaces.
Ce sera effectif quand ?
Alors, cette mesure réglementaire, c'est un décret qui peut être effectif dès l'année 2026.
Il sera pris quand, ce décret ?
Il y a d'autres mesures, parce que je voudrais aussi
On a très peu de temps, pardon. Est-ce que ce décret sera pris dès cet été ?
Ce décret peut être pris, oui, dès cet été. Oui.
Il est en train d'être rédigé.
Exactement.
Merci d'être venu préciser tout cela. Stéphanie Ries, ministre de la Santé sur RMC ce matin, qui nous annonce donc le doublement du plafond des franchises médicales. Chaque patient pourra désormais payer jusqu'à 200 € par an de franchise médicale. Il est 8h55. Dans un instant, c'est les grandes gueules avec Olivier Truchot.
Salut Sébastien, bonjour, bonjour à tous. La France qui continue de faire face aux incendies, notamment dans le Var et en Gironde. Et on a le procureur de la République de Bordeaux qui tape du poing sur la table. Il en a marre des jeteurs de mégots. Donc il a décidé d'être beaucoup plus ferme. Désormais, ils seront placés en garde à vue si on arrive à les interpeller. Ils seront poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc on va au-delà de la simple contravention. Est-ce qu'il a raison, le procureur de Bordeaux? On va en discuter avec les grandes gueules à partir de 9h sur RMC, RMC Story.
À tout de suite, très bonne journée sur RMC.